l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, football, mais également cyclisme. Il s'est passé de drôles de choses sur le Tour des Pays Basques, On en parle dans quelques minutes. Pour l'heure, la présentation de tous nos invités. Le président, c'est son métier, il est à venir. L'équipe du soir, bonsoir, président Roustan.
Bonsoir.
Le maillot cyclamen, donc, a été mis. Chemise cyclamen, maillot cyclamen. Vous savez pas ce que c'est, maillot cyclamen ?
Ouais, ouais.
Les points, ouais. Attention, mon cher Didier, je vous présente votre ville-peuple, le rire de l'équipe du soir, Olivier Rouillet.
Salut mémé. Je trouve que notre président a de très très belles couleurs. Alors je ne sais pas où il est allé, mais il a de très très belles couleurs.
Là où il y avait du soleil, oui. Oh. Ah, ça se voit quand même.
Ah,
ouais, ouais.
Ah non, mais bien.
Oui, ouais, ouais, j'étais quelques jours un petit peu dans le sud.
Non, bien.
Dans le sud. Ben voilà, mais moi j'ai vu, parce que dans le dernier podcast, tu sais, il y a toujours une petite partie rétro, le podcast sur l'équipe.fr. Ouais. Et je faisais la saison 80-81.
Ouais.
Et je revenais sur le championnat, Saint-Etienne. 14 buts qui a marqué cette saison.
Eh bien, peut-être.
Ah non, mais c'est sûr.
Je me rappelle ça.
Ah, mais c'est sûr, oui.
C'est sûr.
Ouais, Delionis 20, Uwe Krause 19.
14 buts.
Ah, alors, je me suis dit, c'est ça, beaucoup. C'est beaucoup, 14.
Oh, bah, alors là, la soirée va être belle.
14 buts.
C'est énorme à l'époque. Ah,
je rigole pas du tout.
Ah, non, merci, merci, président. C'est très gentil.
Que des buts. Donc de belles couleurs, un chroniqueur à droite.
Que des buts.
Silence, mes amis. Le biker est dans la place. Bonsoir, bikers.
Bonsoir. Attendez, je vais m'adapter au programme du soir.
Ah oui, parce que c'est vrai que vous êtes décalé.
Ah oui, c'est tout en dérapage, le speedway. Mais la moto, beaucoup moins dangereuse que le vélo, accessoirement.
Philippe Sanforge, grande voix d'RTL, face à vous, la tigresse de l'équipe du soir. Bonsoir. Il n'y a pas de. Vous n'oubliez pas le jingle, il y a une sobriété incroyable. Là, il y a, elle fait un petit cri de gueule, là, il y a le biker, non ?
Ouais, non, mais c'est aussi. Pas du tout. Fabrique. Ouais, je pense que c'est bien.
Coiffure de Lyon un jour, non ? Je sais pas, non ?
Ouais,
c'est intérieur.
Ou pas.
Intérieur.
Ou pas.
Intérieur. Intérieur. Mais 14 buts, c'est à 6 buts du meilleur buteur de la saison. C'est beaucoup quand même.
Bah oui.
Merci. Le président, ne vous voyez pas aussi à droit.
Non, si. Non, attends, il a marqué un but, une lucarne à Sepp Maier. Ouais, je veux dire, bon, on se calme.
Non, mais c'est bien.
Mais bon, je me disais, je me souviens, il marquait des buts, il faisait des centres, il courait vite, la roue, tout ça. 14 de buts, quand même.
Didier, c'est terrible parce qu'en général, il parle qu'on ne lui a pas donné la parole. Et là, on le fait lanterner. C'est Guillaume Dufy.
Ah,
bonsoir, Guillaume. Bonsoir, commissaire Valentin.
Salle du Ballon d'Or, Olivier Rouillet aussi.
Oh, bah,
ça
pas, non, là. 14 buts. Non, mais franchement, moi, j'en ai jamais marqué 14
en D1. C'est gardien.
Hein, on a pris.
J'en ai pris.
C'est 14.
Ouais, c'est beau. C'est beau.
Et pour les infos du soir, il est de permanence.
Grand buteur aussi.
Tanguy Le Sévillais. Non, je crois qu'il était milieu de terrain.
Ouais,
ça
mais très offensif.
Marquer, hein.
Ouais, très
ça n'empêche pas de marquer.
C'est Tanguy. Bonsoir, Tanguy.
Non, non, milieu de terrain.
Voilà. Lui, il fait maillocher. Il doit maillocher.
Non, non. McAllister,
très propre.
Il t'a mis du carte ce soir.
Très, très propre. Technique. Très propre.
À propos de maillocheur, c'est l'anniversaire ce soir. On a une petite pensée pour René Girard, 70 ans, à propos de maillotcheur.
Ce n'était pas que ça,
mais ouais. Déjà, on ne va pas s'engueuler.
Il marque même un but contre la Pologne en Coupe du Monde.
Pour la troisième place.
Non, mais ça maillotche.
Ouais, ça maillotche.
Mais ça maillotche.
On ne va pas s'engueuler sur René, c'était juste pour lui souhaiter un bon anniversaire.
Surtout du côté de Nîmes, époque Kader Firoud. Ça maillotche.
Mes amis, commençons l'émission. Chute aujourd'hui lors du Tour du Pays Basque. 3 cadors au tapis lors de la 4e étape. Tout s'est passé à 34 km 900 de l'arrivée. Notamment Roglic, Evenepoel, Vingegaard l'ont abandonné. Dès la chute, nous étions préoccupés par l'état de santé de Jonas Vingegaard. Bilan, clavicule droite cassée, plusieurs côtes cassées pour le double tenant du titre du Tour de France. Blessure extrêmement très sérieuse pour Remco Evenepoel. La clavicule droite et l'omoplate droite ont été fracturées. Primoz Roglic, quant à lui, abandonne, mais le Slovène s'en tire qu'avec des bobos, des petites contusions. On va le voir là à la fin, il est dans la voiture, il nous fait un petit coucou. Voilà, rien n'est cassé pour le leader de la Visma, qui a quand même abandonné. Vous avez eu la chute.
Berthier derrière.
À regarder l'endroit de la chute. La descente est classique, sans piège ou sans difficulté. Autre détail, vous le constatez, il ne pleuvait pas. Alors, est-ce la faute à pas de chance ? Cher président de votre ville-peuple, tout le monde a dit non. Philippe Sanfourche, tiens, premier de cordée. Vous, votre lecture, c'est quoi ? Le décalage entre les routes et le matos, il semblerait. On parle beaucoup de matos ce soir.
C'est vrai qu'on peut analyser chaque chute, mais on ne peut pas décorréler ce qui s'est passé aujourd'hui de la série de chutes qu'on a pu vivre ces derniers jours et ces dernières semaines, qui concernent des top coureurs, qui concernent des garçons expérimentés et qui sont tous au sommet de leur forme et de leur art. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un matériel qui est de plus en plus performant, des coureurs qui vont de plus en plus vite, des vélos qui sont de plus en plus rigides, des freins à disque qui sont de plus en plus proches de ce qu'on va trouver en moto que sur des vélos. Et dans le même temps, le commun des mortels pourra s'en apercevoir sur ces petites virées du dimanche, les routes sont de plus en plus dégradées. Et donc cette équation-là fait que le moindre micro-problème se transforme en catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de latence sur un vélo. C'est-à-dire avec une moto, vous freinez, une moto ça fait 200 kilos, il y a un temps de latence. Après la puissance est très... Mais vous avez le temps d'apprécier en fait. Le vélo, vous n'avez pas le temps. C'est-à-dire que vous prenez les vibrations.
Tout de suite.
Parce que les vélos carbone sont hallucinants de rigidité et de vibration.
Et de légèreté.
Et de légèreté. Donc les mecs sont en permanence finalement à gérer en plus la fatigue et l'effort. Et le moindre souci ne peut pas être géré. Et donc c'est pour ça que les chutes sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes puisque... On chute plus à 40, à 40 chute maintenant à 50, à 55, à 60 à l'heure.
Voire plus, hein, Philippe.
Hein. Voire plus, et il n'y a pas de protection. Donc forcément, tout ça mis bout à bout, ça donne des chutes de plus en plus lourdes. Et à mon avis, la part de hasard est de moins en moins.
Sur le tour des Pays de la Loire, nous attendent deux compères.
On n'attend pas Patrick ?
Patrick, il y a Christophe. Alors désolé Christophe, on n'a pas forcément de jingle, mais ça va être un jingle, on va dire, collectif.
Chapi et chapeau.
Bonsoir Patrick et bonsoir Christophe.
Vous les billes.
Désolé de vous déranger. Arrêtez de chambrer, les copains, ils sont loin, machin, ils peuvent pas nous répondre.
Enfin, ils sont loin, ils sont pas sur la lune, ils sont...
Non, mais ils sont pas prêts.
Pays de Loire,
ils
sont pas le Moupet Show, quoi.
Non, mais ils sont, ils sont pas présents.
Non, mais vous les billes, c'est bien, zig et puce.
Je voulais pas vous donner la main comme ça, je voulais vous la donner avec une manière un peu dynamique. Philippe nous a parlé de la monture. Philippe nous a parlé de la monture, du vélo très rigide, choses comme ça, avec la dégradation des routes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut expliquer ces chutes qui se répètent depuis le début de la saison, hein, Patrick et puis Christophe.
Je suis d'accord avec ça, moi. Ils sont toujours...
Allez, je vais commencer. Bonjour à tous, déjà. Ça explique tout simplement, la vitesse de plus en plus élevée, les moyennes qu'on voit de plus en plus élevées, notamment sur les derniers monuments qu'on a eus, on a battu des records de moyenne. Après, sur la nature des routes, je suis un peu moins d'accord. Les routes qu'on avait cet après-midi autour du Pays Basque, j'ai quand même bien regardé. La route me paraissait très belle, très propre. Et puis ça, les coureurs le savent, le sentent et normalement l'anticipent. En tout cas, s'entraînent pour ça. Moi, je pense que le matériel est certes un des éléments, mais il y en a plein d'autres. Il y a l'homogénéité du peloton. Il y a le fait que les coureurs sont de mieux en mieux entraînés. Donc, naturellement, le peloton va de plus en plus vite. Les coureurs sont beaucoup mieux staffés. Il y a beaucoup plus de staff autour d'eux. Donc, la mécanique est poussée à son extrême, mais le corps humain aussi et la performance est poussée à son extrême, tout simplement parce qu'ils sont mieux encadrés, parce qu'ils sont mieux entourés et on est mieux préparé pour rouler plus vite et pour affronter les différents efforts qu'ils doivent faire. Donc, oui, tout ça mis bout à bout font qu'on a des vitesses de plus en plus impressionnantes.
En quoi l'homogénéité du plateau, c'est-à-dire qu'il y a un niveau moyen qui s'est élevé, les coureurs sont rapprochés, en quoi ça provoque des chutes concrètement ?
Tout simplement parce que y a de plus en plus de monde capable de rouler au même niveau pendant très longtemps. J'ai un écho moi, mais je sais pas si c'est normal, mais
non.
Et la route ne s'élargit pas. On n'a pas plus de place sur la route, donc obligatoirement, si on a toujours la même place sur la route, mais qu'on a besoin de coureurs et d'équipes capables de rouler à l'avant, ça fait qu'on est obligé de frotter, qu'on est obligé de se faire de la place, qu'on est obligé de se battre à l'avant du peloton. On sait, on le répète souvent, mais le placement est hyper important. On ne veut pas se faire piéger. La moindre seconde de perdu, ça peut avoir des gros impacts. Donc, tout simplement, il faut rester à l'avant du peloton avec le maximum d'équipiers. Et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et on le disait, avec un niveau plus homogène, il y a de plus en plus de monde qui est capable de rouler à l'avant et pendant très longtemps. Donc, obligatoirement, on se retrouve avec un manque de place. Ça frotte de plus en plus et ça roule de plus en plus vite.
Je me permets,
Tu
parles des routes qui étaient bonnes aujourd'hui, etc. Mais il y a des coureurs, notamment basques, qui expliquait que l'asphalte à cet endroit, il y avait des petits bouts de
dégradé un peu.
Oui,
non, non, mais racines, non,
des racines, des petits bouts de racines qui pouvaient ressortir. Et si à cette vitesse-là, si tu les touchais, tu pouvais. Enfin, c'est ce qui a été évoqué, notamment par un coureur qui connaissait bien un régional de l'étape, un basque bien connu. Non,
enfin. Oui, mais faut pas prendre ça. Là, pardon,
il me semble que c'est quand même prendre le problème par le mauvais bout, c'est-à-dire que des routes dégradées, Didier, enfin, tu sais bien que les routes, d'une manière générale, sont quand même de meilleure qualité qu'auparavant, pour des raisons de sécurité. Tu sais bien que les routes des années 50, 60, elles étaient quand même beaucoup plus pourries que celles qu'on a aujourd'hui. En montagne, c'est vrai, il y a des racines, il y a des... Il y a des pièges, c'est le cas au Pays Basque, mais c'est surtout la conjonction d'un matériel beaucoup plus rigide, et là, effectivement, Philippe l'a très bien dit, d'un matériel de pointe, d'un matériel très léger, d'un matériel qui, on le rappelle, doit respecter des règlements, mais des règlements qui ne sont peut-être pas ceux qu'on doit avoir aujourd'hui. Je pense justement au poids des vélos, les poids... Un vélo, ça doit faire au moins 6,850 kg. D'accord ? Mais ça fait 15 ans peut-être que c'est, je dis 15 ans à un ou deux ans près, que cette règle est valable. Et on sait très bien, pour en avoir parlé avec Thomas Vauclair qui est avec nous, pour en avoir parlé avec Pierre Roland également, on sait très bien aujourd'hui que les vélos ont énormément gagné en rigidité depuis 15 ans. Et les routes, ce n'est pas les routes qui sont en cause, c'est plutôt le matériel qu'on utilise dessus. Voilà, c'est tout. Sinon, on ne va plus en montagne, on ne va plus sur les pavés, on ne va plus nulle part.
Ok. Je vous passe. Guillaume a des choses à dire parce que vous avez lu l'interview de Marc Madiot.
Ouais, que j'ai trouvé passionnante. Alors, elle a été réalisée hier et publiée ce matin par Alex Ross dans sur le site. Lui parle des freins à disque. Moi, je suis pas un spécialiste. J'adore le vélo. Je lis beaucoup de choses, mais je suis pas un spécialiste de la technique. Il parle des freins à disque. Il parle des oreillettes aussi, peut-être avec une déconcentration. Du cycliste, si moi demain je vais faire du vélo dans Paris avec des oreillettes et je me fais arrêter par les flics, bon, j'ai pas le droit. C'est vrai que les cyclistes ont des oreillettes, ont aussi désormais des capteurs sur leur vélo qu'ils regardent sans cesse. Est-ce qu'il n'y a pas non plus
trop d'écran
et un manque de concentration comme nous en voiture? Nous en voiture on est protégés. Eux, ils roulent de plus en plus vite. Ils sont à 80 km/h. Et juste une petite remarque aussi. Moi, j'ai pas l'impression qu'on tombe plus à vélo. Mais aujourd'hui, on se souvenait, quand j'étais petit, on entendait chute à l'arrière du peloton. Mais là, pourquoi on s'émeut? Parce que ce sont des stars qui tombent. C'est Van Aert qui tombe il y a une semaine.
On a
c'est
Vingegaard qui
tombe. C'est Roglic qui tombe et on se dit, le Tour de France arrive. Peut-être qu'on va être amputé de quelques grandes de stars. J'ai l'impression qu'on ne tombe pas plus qu'avant. Alors, je voulais avoir l'avis de deux spécialistes.
Bah oui, Christophe et Patrick, sur l'observation empirique de Guillaume Dufy, on ne tombe pas plus qu'avant, oui ou non?
Moi, je ne crois pas qu'on tombe plus qu'avant. Un coureur cycliste, aujourd'hui, fait à peu près 35 000 km de vélo par an, donc on sait qu'on va tomber 3-4 fois dans l'année, ça c'est la norme. Après, toutes les chutes ne sont pas aussi violentes que celles qu'on a vues à travers les Flandres, elles ne sont pas toutes aussi violentes que celles qu'on a vues cet après-midi. Après, on sait qu'on va tomber, voilà, on fait tellement de vélo. Après, voilà, la vraie cause, elle est diverse. Effectivement, ça peut être dû aux oreillettes, ça peut aussi être dû au compteur, à tous ces éléments-là, mais je pense que ce n'est pas un élément particulier qu'il faut pointer. Vous citiez les oreillettes, et on n'a pas le droit de rouler sur la voie publique avec des oreillettes, ok, en Formule 1, jusqu'à preuve du contraire, et en moto aussi, c'est exactement pareil. Ils sont en relation perpétuelle avec leurs ingénieurs, on leur parle tout le temps, ils ont des écrans, ils appuient sur des boutons pour des réglages moteurs et autres. Voilà, donc on est en fait... Moi, je pense qu'il ne faut pas aller contre cette technologie qui avance. Il faut s'y adapter. Il y a certainement des adaptations à faire. Mais aujourd'hui, enlever les oreillettes, pour moi, ce n'est pas la seule des solutions. Ça peut être un des éléments. Moi, je pense très sincèrement qu'il ne faut pas l'enlever complètement. Après, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Mais je pense que c'est plein de petits facteurs comme ça. Et pour en revenir à l'état de la route... On a parlé de racines et tout ça. Moi, je suis désolé, j'ai vu les images de cet après-midi. C'est clairement un coureur qui fait une erreur, le coureur de Lidl Trek qui glisse et qui tombe parce que tout simplement, il se fait surprendre et il doit freiner trop fort. Et après, c'est Evenepoel qui loupe complètement son virage et qui est hors trajectoire. On a à aucun moment un coureur qui se prend à trou, qui a la main qui tombe du guidon et c'est ça qui implique la chute. Donc, je pense tout simplement que cet après-midi, la chute qu'on a vue, elle est due à une vitesse trop élevée, à un manque peut-être d'anticipation des coureurs. Ils se sont fait surprendre. Ils sont sortis trop large, c'est arrivé dans les premières positions du peloton, donc avec des grands champions qu'on attendait à un très haut niveau et qu'on ne verra peut-être pas, pour certains, peut-être même tout le reste de la saison. Mais malheureusement, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que pour moi, c'est une erreur de pilotage. Et en tout cas, ce qui est intéressant pour la suite, c'est que là, comme on a des champions, et ça a été bien dit, qui sont tombés, et ben au moins, ça va mettre le focus dessus. Et j'espère, via tout ce qui est mis en place par l'UCI, par différentes commissions. Patrick pourra nous en parler après. J'espère que ça va faire avancer le débat et qu'en tout cas, on va trouver des solutions pour que ce soit moins violent et que les gens n'appréhendent plus de regarder du vélo à la télévision. On ne veut plus voir ces images-là, on veut en voir le moins possible du moins.
Moi, ce que je veux juste ajouter, c'est que contrairement à ce que vient de dire Christophe, je vais le contredire, mais il est juste à côté de moi, donc ça va. On va régler ça entre nous. Je suis d'accord avec toi, Guillaume, il y a plus d'accidents, en règle générale, il y a plus d'accidents qu'auparavant. D'abord, il y a des statistiques qui l'attestent. Je ne sais pas si vous avez ce petit panneau que je vous ai envoyé, qui a été publié par l'Union Cycliste Internationale tout récemment. Par rapport à, on a les chiffres de 2023, les stats de 2023 par rapport à 2022, on avait une augmentation de plus 19% des chutes et des blessures. Et même si vous regardez par rapport à 2018, bah vous vous apercevez qu'en 2018, on avait à peu près 150 chutes répertoriées, blessures. Je vous avoue que je ne sais pas vous dire exactement quel type de chute, quel type de blessure, mais on est aujourd'hui à près de 300 chutes en 2023 dans l'année, dans la saison cycliste. Alors on pourra toujours essayer aussi de relativiser les choses. N'y a-t-il pas plus de courses, notamment chez les féminines? Parce que là, je crois que ce sont des chiffres globaux. Mais quoi qu'il en soit, oui, il y a une tendance à une inflation du nombre de chutes. Peut-être aussi parce qu'il y a une certaine tension qui règne. Avant, on disait qu'il y a beaucoup de chutes dans le peloton au moment du Tour de France, au départ du Tour de France. C'est un espèce, dans le jargon, on dit que c'est un marronnier. Quasiment tous les ans, on en parle. Et bien là, on se rend compte que c'est dans toutes les grandes courses, le Tour du Pays Basque fait partie des grandes courses. Dans toutes les courses où il y a un enjeu important, il y a une tension et toutes les équipes veulent absolument gagner une étape, même dans une course dite mineure. Et ça, c'est peut-être un problème qu'il faudra prendre en considération.
Patrick et Christophe, je vous arrête un peu. Je vous mets sur pause, vous restez avec nous. Mais j'ai le plaisir de donner la parole ce soir à Thierry Gouvenou. C'est le patron de Paris-Roubaix. C'est lui avec ses équipes. Donc,
à la chicane
Ouais, qui dessine le parcours du Tour de France, mais en l'occurrence, ce sera dimanche, le parcours du Paris-Roubaix. Thierry, bonsoir, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends, c'était un petit peu compliqué là. Je suis au stade Vélodrome à Roubaix. On vient d'honorer Roger Develamin et André Schmil qui ont gagné dans des années en 4. Et bon, la connexion n'était pas terrible.
Bon, on n'a jamais autant parlé du parcours avant même que la course commence, avec l'ajout de la fameuse chicane avant la trouée d'Arambert. On a quelques images donc pour nos téléspectateurs à vous montrer. Si vous avez ajouté cette chicane avant d'entrer sur ce secteur pavé mythique, quel était, on va dire, l'effet recherché et quel effet a contré?
Déjà, il faut savoir que c'était une demande qui a été faite du CPA. Le CPA, c'est le syndicat international des coureurs, qui, après les nombreuses chutes depuis le début de l'année, m'a demandé de faire quelque chose pour réduire la vitesse à l'entrée de la trouée d'Arambert. Bon, il faut bien être honnête, l'entrée de la trouée d'Arambert, c'est un des moments les plus effrayants de la saison. On arrive sur un faux plat descendant et on arrive sur des pavés très disjoints et ça secoue dans tous les sens. Et quelque part, c'est un des endroits, je pense, qui fait le plus peur aux coureurs tout au long de la saison. Donc cette demande me paraissait un peu logique et puis elle a été appuyée par toutes les chutes de ces dernières semaines. Et donc on a réfléchi à un système. Malheureusement, en peu de temps, il était très, très difficile de se retourner. On a trouvé que cette solution de tourner autour d'un îlot pour vraiment réduire la vitesse des coureurs. Mais avec les collectivités locales, on a déjà des solutions beaucoup plus fluide quelque part pour l'année prochaine et je vous assure que le problème sera pris vraiment très au sérieux et que dès l'année prochaine on n'aura plus cette polémique autour d'une chicane qui n'est pas idéale cette année mais qui était vraiment souhaitée par le CPA, le syndicat des coureurs.
Thierry, je sais que vous avez parlé avec Marc Madiot. Marc Madiot donnait une interview donc, sur le site L'Équipe. Il a tenu compte également de cette conversation, il y a fait référence, mais lui dans son argumentaire, on a déplacé un problème, donc ok, les coureurs vont arriver moins vite pour entamer la trouée d'Arambert, mais finalement c'est déplacé le problème avant, puisque cette chicane va provoquer des chutes. Pour lui, malheureusement, il se dit que c'est inéluctable. Vous accréditez également son opinion,
Les chutes ont lieu à tous les endroits en ce moment. Ouais. Les chutes ont lieu en pleine ligne droite, les chutes ont lieu en descente, les chutes ont lieu sur des routes étroites. Donc en ce moment, on a une accumulation de chutes. Alors forcément, dimanche prochain, il y aura des chutes. Forcément. Et alors peut-être aussi à ce moment de la chicane, mais forcément il y aura des chutes parce qu'en ce moment, on ne vit qu'avec des chutes.
Thierry, je vous passe la main en direct. Et vous aviez peut-être un sonnette d'alarme à tirer, quelque chose comme ça. On est avec Patrick, on est avec Christophe. Eux nous ont dit, ça va trop vite maintenant le vélo. Ça va trop vite.
Mais c'est clair, ça fait des mois et des mois qu'on alerte tout le monde. Alors c'est vrai qu'après les grosses chutes, notamment de Kronowegen autour de Pologne, voilà, on mettait beaucoup en avant le manque de sécurité des organisateurs. Les organisateurs, depuis des années, font beaucoup, beaucoup d'efforts pour améliorer leur sécurité, la sécurité des courses. On met en place des tonnes de choses, hein, des tonnes de choses. Mais on s'aperçoit que le nombre de chutes continue d'augmenter. Alors il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, les chutes ne sont pas dues qu'au parcours. Elles sont dues, à mon sens, et en tant qu'ancien coureur, elles sont dues à la vitesse. À la vitesse. Chez des pilotes, chez nous, chez ASO, au Tour de France, qui sont des gens très expérimentés, qui me disent, Thierry, attention, on n'a plus de marge de sécurité lorsqu'on descend devant les coureurs. Les descentes dans l'école se passent à plus de 100 km/h. Stop, 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 arrêtons le massacre et commençons à réfléchir sur ces problèmes de vitesse. On a énormément progressé en aérodynamisme. On a progressé sur le freinage et tout ça fait que ben voilà, ça va beaucoup trop vite. Et malheureusement, dès qu'on sort de la route, et ben voilà, on n'est pas protégé parce que le vélo se déroule sur la route de Monsieur Tout-le-Monde. Et lorsqu'on sort de la route, et ben on peut tomber face à un arbre, face à un poteau, face à une grosse pierre. Et à chaque fois qu'on sort, et ben voilà, il faut compter sur la chance pour bien s'en sortir. Alors j'espère que les coureurs aujourd'hui qui ont chuté au Pays Basque s'en sortiront correctement. Mais je crois qu'il est vraiment temps de mettre des limites. On entend des braquets utilisés qui sont complètement faramineux. Et je me souviens sur le dernier Tour de France, où dans des faux plats descendants à 3-4%, des coureurs arrivent à sortir du peloton avec des braquets. Alors 58-11, ils roulent à 85. Non, stop, 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 stop. Il faut des limites.
Mais vos propos font réagir le plateau, font réagir. J'ai l'impression, si Patrick Chassez, j'ai l'impression que bah, vous avez entendu Thierry Gouvenou. Donc faut les vélos non, sont mais ça, trop rapides.
On rigolait un tout petit peu parce qu'en plus il y a Marc Madio qui nous envoie des messages en plus pendant que Thierry Gouvenou nous parle. Bon, on aurait presque pu l'inviter à lui aussi. Non mais plus sérieusement, il y a des choses qui sont faites aussi et il faut quand même le signaler. On n'a pas attendu cette chute aujourd'hui pour réagir du côté de l'Union Cycliste Internationale. Thierry est bien placé pour le savoir. Il y a eu cette commission indépendante qui a été créée. À la suite, vous vous en souvenez probablement, puisque c'était sur la chaîne L'Équipe, de cet accident tragique qui a endeuillé le Tour de Suisse l'année dernière. Gino Meder, dans une descente de col, est tombé. Il est décédé. Et par conséquent, il fallait absolument marquer le coup. C'était déjà dans les tuyaux auparavant. Hein. Mais ils ont créé cet organisme, cette commission indépendante. Pour quelles raisons indépendantes? Mais un petit peu comme les contrôles antidopage. On s'est rendu compte qu'il y avait trop d'intérêts qui entraient en ligne de compte. Et même si ce sont les coureurs, même si ce sont les équipes, même si c'est l'Union Cycliste Internationale, et même, bien sûr, les organisateurs qui vont financer ces travaux, menés avec l'Université de Gand en Belgique, eh bien, il va y avoir une véritable recherche pour essayer de comprendre pourquoi il y a plus d'accidents, quels sont les moyens d'y remédier, etc., avec des rapports trimestriels. Ça a été décidé au mois de, juste avant le Tour de France l'année dernière, au mois de juin-juillet, et elle entre en fonction depuis le début de l'année. Donc voilà, encore une fois, on réagit dans l'émotion. Il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place. Le problème, c'est qu'on est dans une réflexion qui va probablement prendre pas mal de temps.
Thierry Gouvenou, donc le directeur du Paris-Roubaix, est avec nous également, mais par téléphone, la connexion vidéo est mauvaise. Thierry, moi, ce que j'ai appris également, donc un, le peloton va toujours plus vite, mais j'ai appris désormais que la manière de rouler dans le peloton a un peu changé. Pour expliquer cette évolution, on va dire, autour du leader, avant, il y avait un coureur avec son leader pour le protéger. Aujourd'hui, pour faire une image, ils sont en bloc équipe. Toute l'équipe roule dans le peloton, mais dans une même équipe. Est-ce que ça a des conséquences pour le débat qui nous intéresse?
Protège le quarterback.
Oui, oui, qui nous intéresse, c'est-à-dire bah, les conséquences, c'est peut-être les éventuelles chutes. Là encore, est-ce qu'il y a une stratégie qui rend les chutes, on va dire, un peu plus nombreuses?
Oui, alors il y a plusieurs facteurs. Celui-ci est très important. Hein. C'est vrai que maintenant, un leader a besoin de 6 ou 7 équipiers autour de lui pour le protéger, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis voilà, il va y avoir 7-8 leaders qui vont avoir chacun leur équipe en ligne devant eux. Et puis ça va provoquer un vrai bouchon en tête de peloton. Et derrière, il y a plein de coureurs qui essayent de passer ce bouchon et forcent le passage quelque part. Et ça provoque des tensions dans le peloton. Bon, il y a ça. Mais aussi, moi, ce qui me semble, c'est que voilà, aussi, on arrive dans le monde professionnel maintenant avec très peu d'expérience. On a beaucoup de très, très jeunes coureurs qui ne sont pas passés par de la formation quelque part dans des catégories intermédiaires et qui arrivent directement au haut niveau. Très fugueux et qui n'ont pas forcément beaucoup de respect des règles qui existent normalement, qui existaient dans le peloton. Et voilà, beaucoup de coureurs qui ont un peu d'expérience se plaignent du comportement des jeunes parce que c'est des gens inexpérimentés et qui font un peu n'importe quoi.
Quand Thomas Vauclair dit dans l'équipe de choc, vous étiez avec lui, vous étiez dans la voiture en train de rentrer à l'hôtel, cher Christophe et cher Patrick, quand Thomas Vauclair dit que les jeunes respectent plus les anciens, c'est pas une phrase de vieux con, c'est à peu près ce qu'a décrit Thierry Gouvenou par téléphone, là, Patrick et Christophe.
Il suffisait de regarder cet après-midi l'arrivée, effectivement, enfin je préfère que ce soit Christophe qui en parle, mais l'arrivée de l'étape aujourd'hui sur la région Pays de la Loire Tour, il y a un jeune équipier d'un leader qui emmène le sprint, qui s'écarte, qui gêne tout le monde, qui manque de mettre par terre Brian Coquard. Je crois qu'on est exactement, sans vouloir l'incriminer lui particulièrement plus que les autres, on est vraiment dans un cas de figure tel que le décrit Thierry Gouvenou ce soir.
Oui, mais d'accord, d'accord sur ce que vous dites, mais moi ce qui m'étonne un peu, c'est que la tactique employée par la préparation d'un sprint, elle est préparée en avant par les directeurs techniques, les directeurs
sportifs.
Ouais. Et on leur donne quand même des consignes. Donc si le mec il se dégage au dernier moment, c'est que son directeur lui dit quelque chose. Bah, écoute, moi j'y connais rien, mais
il pose une question.
Je pose une question et moi je trouve que il y a un truc qui me gêne dans tout ce que vous dites vous, parce que vous parlez jamais de l'ambition des coureurs cyclistes. Je pense que c'est comme le reste, ça change. Les mecs, ils ont envie de gagner les trophées. Les mecs, ils ont envie d'être premiers. Les mecs, ils ont envie d'être les plus forts.
C'est ce qu'ils ont dit lorsqu'il y avait une homogénéité, je pense.
Oui, mais individuellement. Ouais. Non, mais individuellement, ouais. Les mecs, ils veulent tous gagner des trucs. Ouais. Ils veulent aussi avoir.
Non, ça c'est faux.
Ah bon?
Non. C'est justement le cas individuel qui est pointé. C'est le cas collectif. Il faut une équipe derrière un coureur, tout simplement parce que tout le monde est beaucoup plus fort. Et quand on dit aujourd'hui, on a 4, 5, 6 équipiers autour d'un leader, que ce soit pour le sprint ou pour le classement général, c'est tout simplement parce que les autres fonctionnent comme ça et qu'on sait que ça se joue aujourd'hui à rien. Pour faire des différences, ça se joue vraiment à rien. Donc il faut absolument encadrer au mieux son leader. Et ce n'est pas juste pour faire joli, pour être ensemble. Non, c'est parce qu'on l'abrite, parce qu'il s'économise. Parce qu'on lui amène ce qu'il faut en nutrition, en boisson et tout. Et en fait, voilà, on s'occupe vraiment de lui, on le remonte, on le replace. On fait en sorte qu'il s'économise pour qu'il soit tout simplement le meilleur dans le final. Et aujourd'hui, tout le monde fonctionne comme ça. C'est le cyclisme moderne. Avant, on se plaignait qu'il y avait, Armstrong ou Sky qui faisaient ça seul. Et ben aujourd'hui, tout le monde s'est adapté à ce vélo parce que c'est ça qui fonctionne le mieux. Et c'est comme ça qu'on tire le meilleur de chaque élément.
Olivier, tu sais, juste quand même, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, c'est un sport d'équipe, ça tu le sais, mais avec un travail hyper spécialisé de chaque équipier. Et ce n'est pas le directeur technique ou le directeur sportif dans la voiture qui, au moment du sprint, va donner des consignes dans les oreillettes. En revanche, il met une pression énorme sur ses coureurs pour que, effectivement, les coureurs, ils sont tous au courant au même moment qu'il y a un danger, ils sont tous au courant au même moment qu'il faut venir se replacer devant parce qu'il va y avoir un virage, parce qu'on va aborder une bosse, parce que, etc. C'est cette pression qu'on met sur les coureurs. Ils ont en plus sous les yeux, effectivement, le GPS. Tout à l'heure, Philippe en parlait. C'est cette somme d'informations. Il n'y a pas que notre société qui est surinformée. Hein. Même les coureurs, sur leur vélo, sont surinformés. Et c'est cette pression qui est dangereuse. Moi, je regrette quand même qu'en 2010... on a voulu interdire les oreillettes. Vous savez ce qui s'était passé sur le Tour de France à l'époque, Thierry Gouvenou s'en souvient évidemment, c'est que tout simplement les coureurs avaient fait grève. Ils avaient refusé, sous l'injonction de leur directeur sportif, qu'on supprime le coaching par les oreillettes. Donc à un moment, il faut aussi que tout le monde prenne ses responsabilités.
Mais ça, c'est un bon tacle parce qu'en fait, les oreillettes, on a l'impression d'avoir la technologie dans le Var, c'est déresponsabilisant. Le peloton va de plus en plus vite avec des cyclistes toujours plus connectés, avec plein d'informations, plein de paramètres. Et des choses, des situations de danger à gérer. Bonne intervention de Patrick. Il y avait une question de Mélisande Gomez à Thierry Gouvenou qui nous attend du côté de Roubaix par téléphone.
Oui, alors on est tous d'accord pour dire que c'est la vitesse qui est la cause principale de ces chutes de plus en plus nombreuses et surtout de plus en plus dangereuses. Et la priorité, c'est quand même la sécurité des cyclistes, même s'ils veulent gagner, même s'ils vont de plus en plus vite. Et ça, c'est très bien. Mais quelles sont concrètement les solutions qu'on peut envisager pour soit les faire ralentir, soit sanctionner ceux qui n'ont pas la bonne attitude, puisqu'il y en a apparemment qui jouent un peu les cadors dans le peloton et qui font prendre des risques aux autres. C'est quoi concrètement la solution? Est-ce qu'on peut leur dire il va falloir aller moins vite, changer les braquets, changer les vélos, changer les habitudes?
Petit trou.
Alors moi je veux bien répondre. Hein. Déjà, je pense que nos problèmes dans le cyclisme sont arrivés avec les freins à disque. Voilà, les freins à disque se freinent beaucoup plus fort et clairement le peloton, du coup, les coureurs n'ont plus besoin d'une marge de sécurité comme ça existait auparavant et sont beaucoup plus concentrés dans le peloton. Un peloton va prendre beaucoup moins de place qu'auparavant. Par contre, dès qu'il y a un coureur qui fait une erreur, c'est le château de cartes. Et tout le monde s'écroule dans le peloton. Ça, c'est le premier point. Alors après aussi, moi, j'ai fait partie du groupe de travail de la commission dont parlait Patrick tout à l'heure. Et il va être mis, je pense, en place d'ici la fin de l'année, un système de carton jaune, carton rouge. Et voilà, où il y aura une sanction lorsque les comportements des coureurs ou de n'importe quelle personne en course ne sera pas bon. Et on accumulera des cartons et à un moment donné, on aura des exclusions. Et là, je pense qu'à ce moment-là, il y aura une vraie prise de conscience, alors on va dire des coureurs, mais de tous ceux qui sont autour de la course, pour changer les comportements et réfléchir un petit peu au danger qu'on fait courir aux autres. La situation du sprint aujourd'hui sur les Pays de la Loire, eh ben, d'ici peu, ce sera sanctionné par un carton jaune. Et il y aura donc un suivi. Et si le coureur se rend coupable plusieurs fois d'une faute, il sera sanctionné et suspendu pendant un bout de temps. Donc voilà, il va y avoir des avancées, mais là on est dans un moment un peu, j'ai envie de dire, critique. Et il va falloir faire le dos rond quelques mois avant de commencer à avoir une petite éclaircie.
Thierry, juste dernière question, mais c'est bien les cartons jaunes, ça fait peut-être un peu gadget, mais... En fait, les vélos, c'est des machines de guerre, il faut un peu les désarmer, en fait. Il faut que ça roule moins vite, il faut ralentir les vélos. Non ?
Ben oui, mais je pense qu'on se rapproche un peu des sports mécaniques, et les sports mécaniques ont mis des limites à certains moments. Eh ben, il va falloir avoir le courage de dire à l'industrie du cycle, bah stop, on arrête le développement, on va un petit peu en arrière, on fait des vélos qui sont adaptés à la course, sur route, parce que voilà, on ne fait pas le rallye de Monte-Carlo avec une Formule 1. Et ben voilà, et ben sur le Tour de France, on ne fait pas le Tour de France avec une Formule 1 non plus, parce qu'on passe à travers des aménagements urbains, on passe sur des dodanes, on passe dans des rues étroites, on va dans des descentes avec différents goudrons, et donc on n'est pas sur un circuit. Et donc il faut avoir le matériel adéquat en fonction du terrain.
Merci Thierry Gauvenoux, très bonne soirée. On suivra évidemment la course dimanche Paris-Roubaix. Et puis, cher Christophe et cher Patrick, demain vous vous rempilez, 13h20, on croise les doigts qu'il n'y ait pas tôt de chute, ou pas du tout de chute, c'est demain le tour des Pays de Loire. Ça commence à 13h20, c'est la prise d'antenne ou un petit peu avant? Non, 13h20, ça, c'est là hein? Vous allez faire quoi ce soir?
Oui, parfait.
Vous sortez ce soir?
Je ne vous regarde pas.
Non, il est tout. D'accord. Ok, très bien. On vous embrasse, les copains.
Il nous attend pour boire un coup, là.
Ah, d'accord. Ah, pardon.
Il va y avoir des chutes aussi. Allez.
Chute à l'arrière du peloton.
Très bien. Voilà. On vous embrasse, les copains. C'était parfait.
Il n'y a pas que la course qui est déroulée.
Papier dans l'équipe sur la chicane demain, la chicane de la discorde.
Ah, ouais. La chicane de la discorde. Beau titre. Chute aujourd'hui, donc, lors du Tour du Pays Basque. Trois cadors, notamment au tapis. Roglic, Evenepoel et Vingegaard ont abandonné. Clavicule droite cassée, plusieurs côtes cassées pour le double vainqueur du Tour de France, le Danois Vingegaard. Blessure également très sérieuse pour Remco Evenepoel avec la clavicule droite cassée, l'omoplate droite fracturée pour Evenepoel. Primoz Roglic, lui, plus de peur que de mal. Bobo, contusion. Et puis, Pogacar, il a réagi sur son réseau social. Je ne sais pas s'il est sur Insta, sur Twitter, sur X.
Sur X. Le concurrent des trois malheureux du jour, Tadej Pogacar, qui n'était pas sur ce Tour du Pays Basque, a réagi effectivement sur X. Les accidents ne sont jamais quelque chose que nous voulons voir dans le cyclisme. Malheureusement, aujourd'hui, nous en avons vu un de très méchant. Je souhaite à mon coéquipier Jay Vine et à tous mes camarades du peloton un prompt rétablissement après leur chute d'aujourd'hui. Jay Vine, à son coéquipier, il souffre d'une fracture cervicale, de deux fractures du corps vertébral de la colonne thoracique. On lui souhaite également un bon rétablissement.
En début d'émission, je dis Roglic chez les Visma. Non, il est chez les Bora.
Ouais.
L'émotion, hein, certainement. Dans quelques minutes.
Crèmerie.
Oui, bah voilà.
Ça va trop vite, la télé.
Ça va trop vite. Dans quelques minutes, Paris Saint-Germain-Barça.
Ah, du football.
On est à J-6. Allez, à tout de suite avec une sortie passionnante de Julien Stéphan qui nous a fait la description, donc vraiment magnifique, du PSG de Luis Enrique. Ce sera notre point de départ de notre discussion sur le PSG ce soir. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir. PSG-Barça, c'est dans 6 jours. six jours du choc. Donc, comment va Paris? Quel est son niveau? Pour répondre à cette question, on va s'appuyer à du dernier match. Hier soir, en Coupe de France, une victoire de Paris contre Rennes. Et avec la conférence de presse donc de Julien Stéphan, tout est parti d'une question de notre envoyé spécial, Giovanni Castaldi. Vous avez affronté deux fois le PSG en un petit peu plus d'un mois. Comment jugez-vous leur évolution et ou leur progression? Radiographie du jeu du Paris Saint-Germain version Luis Enrique par Julien Stéphan. On y va.
Sur le match de ce soir, oui, ils ont très bien tenu le ballon. Jusqu'aux 25-30 derniers mètres. En tout cas, en première mi-temps, parce que les situations dangereuses, elles sont venues de transition principalement, ou une fois d'une percussion individuelle d'Ousmane Dembélé. Ce qui est assez paradoxal avec cette équipe, c'est qu'elle est capable d'avoir des longs temps de possession, et en même temps, il faut avoir de la patience, parce que comme dans la surface de réparation, il n'y a pas énormément de projection, ça ne vient pas de centre, ou rarement de centre, faut pas ouvrir certains espaces, donc il ne faut pas être aveuglé par ce qui peut être... dangereux et ce qui est parfois, excusez-moi du terme, mais un petit peu chiant à gérer, quoi, parce que leur possession, elle peut être pénible. Voilà, elle peut être pénible. Elle a été pénible sur la première période, mais le danger, il est venu quand il y avait des espaces. Voilà, principalement là-dessus, sur des situations de transition. Et quand on prépare un match contre eux, ben, il faut essayer d'anticiper tout ça et considérer que la deuxième partie du match est une bonne période pour ton équipe, parce qu'il y a des espaces qui peuvent s'ouvrir après dans la deuxième partie du match, et ça s'est produit encore aujourd'hui. Après, on ne les a pas suffisamment bien exploités.
Alors, qu'est-ce qui fait le style de jeu d'une équipe? Est-ce que c'est sa manière de jouer ou sa manière de marquer? Finalement, la question, est-ce que c'est une équipe de possession, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ou de contre-attaque? Il dit plutôt de possession. On est dans la nuance parce que c'est une formule, on va dire, un peu hybride, un peu changeante, tout ça. Tout ça est très mouvant.
Ah oui, clairement. C'est fondamentalement une équipe de possession, déjà de par la volonté de son entraîneur, que ça le soit. Mmh. Et ensuite aussi par le scénario de la saison et des matchs qu'on a pu voir. Après, il y a la possession haute et il y a la possession plus basse. Ce qui est évident, on l'a bien vu, que ce soit contre Rennes hier ou même à Marseille.
Ouais.
Ça demande beaucoup d'efforts, une possession haute, parce qu'il faut travailler énormément à la perte de balles pour pas que ça parte dans le dos. Ça génère aussi beaucoup de cartons, de fautes, on l'a vu à Marseille. Donc ça peut pas être sur 90 minutes, à la fois sur le plan physique et sur le plan de la gestion des fautes et des cartons. Donc il y a inexorablement des moments dans la rencontre où le PSG est obligé d'être plus bas, mais doit conserver la possession, parce que quand cette équipe n'a plus le ballon, elle est tout de suite en danger. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas défendre bas sans avoir le ballon.
Oui, mais ce que nous dit, ce que nous confirme aussi Julien Stéphan, c'est face à cette équipe, c'est quand tu as la balle que tu peux être en danger.
Ah bah,
vous voyez, c'est là où finalement il y a des analyses qui sont...
À cette question.
Pas erronée, mais un
coup. À cette question, vous regardez les stats. Est-ce que Paris a le ballon et garde le ballon?
Oui.
Est-ce que cette équipe... Quand elle a le ballon, est-ce qu'elle est dangereuse sur ses phases de possession? Non.
C'est ce que nous dit Julien Stéphan.
Donc c'est passionnant ce qu'il dit et ça vient d'un
sur ce match et sur celui de Marseille, ça dépend. Là, je vois des images de Montpellier. Je me souviens très bien de ce match. Alors, je ne parle pas de la deuxième mi-temps où Montpellier a baissé pavillon et tout, mais il y avait de la possession très haute. Et ils ont marqué, sauf une fois sur un coup franc en profondeur. Bon, on peut parler de transition si on veut. Et les deux buts, le but de Vitinha et le but de Mbappé. Et par contre, c'est les autres qui avaient des espaces énormes, Montpellier, qui auraient presque pu plier le match en première période, si tu veux, tu vois. Et à l'arrivée, oui, c'est vrai que hier, l'unique but, il est sur une transition. L'action où il y a le face-à-face raté par Mbappé ou gagné par Mandanda, c'est suivant les goûts.
Le
pénalty, pareil. Mais à l'arrivée, il gagne quand même ce match sur un but en bois, quoi. Qui est un but contre son camp.
Ouais.
Non, mais je veux dire, tu vois,
sur une transition rapide aussi.
C'est le paradoxe. Mais d'un autre côté, ouais. Mais après, il y a Rennes aussi. Alors, est-ce que ils ont joué vraiment très prudemment, comme on peut le ressentir en première mi-temps, ou est-ce qu'ils ont été étouffés? Moi, j'ai trouvé, même si pour le coup Paris était moins dangereux, à part ce raid de Dembélé un peu fou, ouais, et puis après, bon, il rate le geste final. Mais moi, j'ai trouvé Paris, dans les 20 premières minutes, vachement bons, quoi. Ouais. Comme ils ont, comme quand ils étaient menés contre Monaco au Parc, ils ont eu 20 minutes où ils t'ont étouffé et ils t'ont marqué un ou deux buts aussi. Donc ils peuvent le faire aussi. Il y a, c'est pas hier, bon, c'était Blanc-Bonnet, bon, d'accord.
Mélisande, mais... on est peut-être parti, bon, peut-être on s'est éloigné, mais peut-être pour mieux y revenir. Possession, contre-attaque, voilà, sur ça. En fait, le style d'une équipe. C'est sa manière de jouer ou sa manière d'être dangereuse pour l'équipe d'en face.
Non, philosophiquement, c'est une équipe de possession, parce que c'est de position même, c'est le foot de Luis Enrique. Et Philippe a raison, c'est ce qu'il veut mettre en place. Mais ça, si vous voyez en Europe les équipes qui sont dangereuses, parce que le plus dur c'est d'être dangereux comme ça,
c'est-à-dire ben, oui, sur des attaques là, c'est passées, pas
des longues phases de possession, ouais, ben oui. Où à un moment donné un joueur va trouver l'ouverture, et comme le dit Julien Stéphan, c'est de miser sur l'erreur de l'adversaire qui à un moment donné va sortir parce que c'est chiant, comme il dit lui, de courir comme ça, d'attendre, ouais, et donc à un moment donné il y en a toujours un qui peut se faire aspirer, et c'est à ce moment-là que tu vas trouver la passe puis marquer. Mais ça demande, c'est Arsenal, c'est évidemment City. Manchester City, c'est des entraîneurs qui sont là depuis plusieurs saisons, qui travaillent beaucoup parce que c'est un football
qui et qui ont des joueurs adaptés à ça
et
aussi.
Qui ont des joueurs pour jouer comme ça.
Or, le PSG n'a pas des joueurs.
Ils ont des joueurs devant pour jouer en
transition. Et c'est
pour ça. Ce qui est vrai, c'est que c'est une équipe de possession et qui voudrait être une équipe de possession, mais ils marquent sur contre-attaque à Marseille ou hier parce qu'ils ont des joueurs tellement forts là-dedans, qu'ils ont des buts là-dedans.
Et c'est juste le signe qu'envoie Luis Enrique, c'est le PSG de la saison prochaine. C'est clair, net et précis. On le voit déjà par sa composition d'équipe. À partir du moment où il ne met plus quelqu'un dans l'axe,
un vrai neuf,
qu'il ne met plus quelqu'un dans l'axe, ça veut dire que il nous ramène à ses années au Barça. Et donc il a l'impression. Moi, c'est l'impression qu'il donne.
Enfin, il y avait Suarez dans l'axe.
Non, quand même. Oui, mais Suarez bougeait quand même pas mal.
Oui, mais c'était un vrai avant-centre. Il bougeait, mais c'était un avant-centre.
Et j'ai l'impression, tu vois, qu'il nous prépare à la saison prochaine. Il l'a dit et répété. Mm. Et là, je suis en train de comprendre tout ce qui, même si par moment il est provocateur, il nous dit, il faut qu'on prenne. Alors même si hier soir Mbappé était là, mais il est en train de nous préparer à ce que va être le Paris Saint-Germain de la saison prochaine. Mais Olivier... Donc c'est une équipe de possession. De toute façon, en Ligue 1, c'est automatiquement eux qui ont le ballon. Vous pouvez prendre
tous les matchs. Oui, puisque les autres attendent, c'est le PSG.
Ils ont le ballon.
Comme depuis...
Effectivement, ce travail qu'ils font pour l'équipe adverse, des fois, et il l'a bien.
Mais moi, je trouve qu'il fait aussi...
L'explication est bonne.
Un peu en fonction de ses joueurs, quelque part, si tu veux. Ben, il tente beaucoup de choses et il les met dans des situations à partir du moment où tu mets pas un avant-centre. Mais d'un autre côté, Dembélé rate tous ses centres et Mbappé ne centre jamais ou il rate tous ses centres aussi. Il a fait encore un centre, machin. Donc, ça veut dire un avant-centre avec ces deux joueurs-là sur les côtés, si tu veux.
Et même quand les latéraux débordent, ce qui a été le cas hier une ou deux fois, et c'est Loïc Rémy qui commentait le match, se dit, c'est dommage parce que excellent travail sur les côtés, mais dans l'axe,
il n'y a personne.
Eh oui. Alors après, sur la possession, je trouve que l'un des plus beaux buts du PSG cette année, il y a 17 joueurs qui touchent le ballon, je crois que c'est le deuxième à la Real Sociedad, qui est fantastique, qui a un but fantastique.
Ils peuvent le
faire. Si ça avait été le Barça, on en aurait fait des tonnes. Un but exceptionnel, ils savent le faire. Oui. Mais moi, à part ce but-là...
Mais par intermittence quand même, pour être efficace.
Je trouve que le PSG est beaucoup plus dangereux quand il récupère la balle dans son camp et il y a 2-3 joueurs capables de lancer la même personne à gauche et ça va très vite. Et je trouve que c'est leur identité encore aujourd'hui.
Mais contre des équipes françaises, ce qui joue bas, c'est difficile.
Mais ça, tu ne peux pas l'enlever. C'est la force numéro 1 du Paris Saint-Germain. C'est Kylian Mbappé. Ouais. Ça, tu ne peux absolument pas l'enlever. D'ailleurs, les situations dangereuses que tu as hier, elles sont systématiquement de lui. Ouais. On parle de Dembélé. Si Dembélé, on le sait tous, si Dembélé finalisait tout ce qu'il entreprend, mais je pense que hier soir, le PSG gagne 4-0.
Dembélé, le numéro 10.
Mais même quand il est sur les côtés, même quand il est sur les côtés, s'il finissait tout ce qu'il entreprenait, ça serait extraordinaire.
Stéphane a dit qu'il serait ballon d'or.
Comment ? Non, s'il marquait.
S'il finissait.
Tu constates quand même que la transition, elle fonctionne à merveille tant que tu as Kylian Mbappé dans ton effectif. Je suis désolé.
Dans quelques minutes, si vous voulez savoir pourquoi le championnat d'Angleterre est le meilleur championnat du monde, c'est à suivre en la une du journal de Tanguy Le Sévillier. Mais à tout de suite. Avant la pause, je vous disais pourquoi le championnat d'Angleterre est le meilleur championnat du monde. Bah, la réponse, dans le journal et en mini-info de Tanguy Le Sévillier. Tanguy, rebonsoir. Liverpool, Sheffield.
Bonsoir, Tanguy.
Succès du leader de Première Ligue. Mais ça a été dur, hein.
Oui, ils n'étaient pas leaders avant cette journée, avant ce match face à Sheffield United. Victoire 3-1 à Anfield avec, eh bien, vous allez voir ce premier but. Ça vous intéressait, Guillaume, la relance du gardien. Pas incroyable. Ça permet à Darwin Núñez d'ouvrir le score pour les Reds.
Il a pris son temps, il a regardé un peu ce qui se passait à droite, à gauche, mais pas au milieu.
C'était Ivo Garbić, l'ancien gardien du LOSC. Égalisation sur ce CSC de Connor Bradley. Derrière, Alexis McAllister va redonner l'avantage à Liverpool sur cette magnifique frappe de l'Argentin.
Je l'aurais sorti, je pense.
Et puis derrière, le centre parfait de Robertson pour la tête de Cody Gakpo. Ouais. Victoire 3-1 des Reds qui reprend sa place de leader devant Arsenal et Manchester City. Sheffield est dernier.
Mais c'est pas tout.
Non.
Match de dingue ce soir entre Chelsea et Manchester United.
The cherry on the cake sur cette journée de Première Ligue. Wow. Victoire de Chelsea dans un match fou où on est passé par toutes les émotions du côté des Blues avec ce premier but de Conor Gallagher. Le deuxième de Cole Palmer, les Blues mènent 2-0 à ce moment-là du match. Ils se font rattraper d'abord par Garnacho qui subtilise le ballon dans la défense de Chelsea. Égalisation de Bruno Fernandes. Derrière, les Mancuniens vont marquer un troisième but sur ce but de Garnacho. Cole Palmer va égaliser de nouveau et là, 101e minute, c'est lui, Cole Palmer, qui va s'offrir un triplé et offrir la victoire aux Blues. Okay. Avec ce succès, 4-3. On le rappelle, c'est un ancien Citizen. 16e but en Première Ligue pour lui avec ce triplé.
Et en Angleterre, on laisse le temps additionnel se dérouler jusqu'au bout. C'est ce que vous avez noté.
Oui, je trouve ça appréciable. En Ligue 1, tu comprends pas. Des fois, il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Enfin, tu vois qu'il y a un joueur qui se fait soigner, énormément de changements. Et puis, à l'arrivée, hop, 3 minutes d'arrêt de jeu. Ouais. Là où on le mériterait 6 ou 7. Et je trouve ça.
Et les défenseurs,
ça change beaucoup de choses.
On avait une explication par rapport à ça ?
Non.
Non ?
Non, je sais pas. Et les défenseurs laissent aussi beaucoup les attaquants marqués aussi.
Il y a un seuil symbolique. Il y a un seuil symbolique de 5-6 minutes au-delà duquel, sauf si vraiment il y a un fait de jeu avec le match arrêté par l'arbitre longtemps où on va aller plus loin, mais sinon, c'est 5-6 minutes parce que.
Parce que quoi?
Et parce qu'il y a aussi.
S'il y a 8 minutes d'arrêt de jeu,
bah. Les diffuseurs, par rapport à des formats, et par rapport à des.
Ah, ça met en difficulté les diffuseurs si c'est un peu trop long. Ah, bah alors, d'accord, très bien. On dépasse pas 5.
Au prix du match,
je pense que les arbitres.
Non, je trouve.
C'est n'importe quoi.
Ok.
Non, quand bon, football, tu vois, s'il si y a les histoires de diffuseurs en Angleterre, il y a 3-2 pour Manchester United.
Le football anglais a suivi la FIFA qui, pendant la Coupe,
du, pendant monde, la coupe du Monde, on a eu ça. Mais souvenez-vous, les premières journées de championnat,
ça commençait en début de saison avec ça.
Tout à fait. Et puis petit à petit,
à un moment, oui,
ça a été changé en cours de saison, ça nous dérange absolument pas.
On va jamais au bout.
Non, on va jamais au bout.
On va jamais au bout de rien.
Quand il y a des arrêts de jeu, pendant les arrêts de jeu, ça
compte.
Il y a la météo après.
En Bordeaux, ce sera sans supporters girondins samedi en Normandie.
Oui, il y aura près de 20 000 spectateurs qui sont attendus à Michel Dornano. 500 supporters bordelais avaient prévu de s'y rendre. Ils n'en auront pas l'occasion puisque la préfecture du Calvados a publié un arrêté aujourd'hui interdisant aux Bordelais de se rendre sur zone. Pas par crainte d'affrontement entre supporters des deux clubs, mais bien entre deux groupes de supporters girondins, les Northgate Bordeaux et les Ultramarines. Le match sera à suivre à 19h ce samedi sur la chaîne L'Équipe.
Hervé Renard taquiné aujourd'hui en conférence de presse à la veille d'affronter l'Irlande avec l'équipe de France dames, bien sûr.
Oui, on connaît la presse britannique, elle est souvent un petit peu piquante. Hervé Renard n'y a pas échappé avec une question d'un journaliste irlandais. L'Irlande se cherche un coach, est-ce que ça peut vous intéresser? La réponse du sélectionneur des Bleus.
C'est bon.
Non, mais je pense que chaque semaine... Je ne suis intéressé que par demain. Je pense que toutes les semaines, des gens me parlent d'une nouvelle destination, voire même tous les jours. Mais ce n'est pas le plus important. Je vous réponds en anglais car je peux moi-même me traduire. Je ne veux plus jamais répondre à une question concernant mon futur car ce n'est vraiment pas le plus important.
Hervé Renard en anglais, ça nous rappelle le mondial. You can take the picture with Messi. You can take the picture with Messi. C'était contre l'Arabie Saoudite.
C'est quand même pas Jacques Santini à Tottenham. On the black au beau.
Ouais, mais qui faisait malgré tout c'est l'effort de parler.
Oui, ah oui, non, très bien.
Bien joué, Guillaume, t'as raison.
Très bien.
Plutôt respectable.
Raphaël Nadal est forfait pour le tournoi de Monte-Carlo.
Il n'y aura pas de 12e sacre pour l'Espagnol à Monte-Carlo. Mon corps ne me le permet tout simplement pas, a-t-il écrit ce jeudi sur ses réseaux sociaux. Sur ces images, cela semble aller, hein, a priori. Mmh. C'est au service qu'il aurait des difficultés. Son dernier match remonte à janvier dernier à Brisbane, en Australie. Le tournoi de Monte-Carlo est souvent préparatif à Roland-Garros. On ne sait pas si l'Espagnol, qui fêtera ses 38 ans en juin, sera présent porte d'Auteuil.
Ouais, il n'y aura pas de 12e simple. Est-ce qu'il y aura encore du tennis là? On peut commencer à se poser les questions.
Bah, je pense que les gens qui suivent le tennis et qui travaillent sur cette discipline l'équipe se pose sérieusement la question. Mmh. On rêvait tous peut-être d'un magnifique adieu à Roland-Garros. Je ne suis pas persuadé que Nadal ait envie de jouer ce tournoi sur une jambe ou sans avoir 100% de ses moyens. Ce n'est pas le style de la maison. Quoi. Donc s'il ne peut pas, c'est qu'il ne peut pas.
Rendez-vous au JO peut-être, à Roland, voilà, pour les Jeux de Paris.
Bah, il faut qu'il obtienne son ticket aussi. Parce que...
ouais. L'actualité tennis est à Estoril. Les Français, bon, il y en a qu'un qui passe. C'est Richard Gasquet. Malheureusement, il n'est pas en image. Vous avez les autres qui ont perdu. La vie est mal faite. Comme
c'est ça. Richard Gasquet s'est qualifié aux dépens de Dominique Thiem. Et ce soir, malheureusement, Gaël Monfils s'est incliné contre Marton Fucsovics. S'il avait pourtant jamais perdu contre cet adversaire. Défaite en huitième de finale, défaite en trois manches. 1-6, 6-1, 7-5. Le Français s'est même procuré trois balles de match. Le Hongrois sera opposé à la tête de série numéro 1 du tournoi, Casper Ruud, au prochain tour. Alors que Richard Gasquet lui affrontera Pedro Martinez, tombeur de Roberto Bautista.
C'est qui l'a battu, Gasquet?
Il n'a pas battu Dominique Thiem.
Eh ben oui.
Dominique Thiem, ouais. Il n'est plus le...
Non, mais c'est pas...
Mais enfin, c'est bien.
C'est bien.
Quel mec qu'on 40 balais, dont on parle.
Et Cascais, une belle station balnéaire portugaise. Hein.
Ah oui.
Très bien. Juste à côté, à côté d'Estoril.
Ouais, mais prendre un petit billet par l'office du tourisme là-bas.
Il est vraiment très sponsorisé.
Merci beaucoup. Arrêtez de rire, puisqu'on parle du Tour du Pays Basque. C'était l'ouverture de l'équipe du soir, quatrième étape, marquée par une chute terrible.
Oui, un virage à droite en descente et on retrouve au tapis, malheureusement, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Suite à l'accident, eh bien, la course a été neutralisée. Vingegaard, double tenant du titre sur le Tour de France, était le plus gravement touché, évacué sur civière. Avec une minerve, on va le voir juste après sur les images. Aux dernières nouvelles, il souffre finalement d'une clavicule cassée, de plusieurs côtes cassées. Il va rester hospitalisé. Remco Evenepoel, c'est lui, fracturé l'omoplate et la clavicule droite. Pour Primoz Roglic, plus de peur que de mal a priori. Il a quand même abandonné avec ses petits bobos qui restent a priori superficiels.
Du cyclisme et sur la chaîne L'Équipe, on a eu nos deux envoyés spéciaux là, sur ce débat avec la troisième étape du Région Pays de la Loire Tour. Que sont à pas l'envers.
Ouais, c'est ça. L'étape de près de 160 km se disputait entre Segré en Anjou Bleu et Château-Gontier sur Mayenne. La fin de l'étape avec la victoire de l'Italien Alberto Dainese. Aux commentaires, Patrick Chassé, Pierre Roland et Christophe Riblon.
Dainese, Coquart ou Vandenberg? Vandenberg le mieux placé des trois, avec Janier qui est juste derrière. Ça va se jouer entre ces quatre coureurs visiblement. Au sort du virage, on n'est pas tombé heureusement, avec Dainese qui est en tête. Coquart, Dainese, Vandenberg. Dainese finalement devant Vandenberg et Coquart. Et bien voilà, Dainese gagne cette étape.
Au classement général, c'est le Français Ewen Kostiou hein, qui est leader. Rendez-vous ce vendredi à 13h20 pour la quatrième et dernière étape. On retrouvera évidemment Christophe Riblon et Patrick Chassé.
On a les droits.
Oui, info l'équipe à présent. Erwin Engapet, candidat pour être porte-drapeau des Bleus de l'équipe de France au JO de Paris.
Oui, il est champion olympique en titre avec les Bleus du volet. Erwin Engapet rêve d'emmener la délégation tricolore lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est son entourage qui l'a convaincu de se lancer dans cette aventure. Dans son passé, il a eu quelques condamnations, mais rien de rédhibitoire pour ce genre de désignation chez les hommes. Seul Florent Manaudou a officiellement proposé sa candidature. Les heureux élus seront connus à la mi-juillet, quelques jours avant le début des Jeux.
Dans cette candidature, on voit des histoires judiciaires remonter à la surface à propos d'Erwin Engapet, des bagarres en boîte de nuit avec un contrôleur SNCF, des démêlés avec la justice, mais des procès toujours, je le précise, gagnés en appel. Alors des erreurs qualifiées d'ailleurs par l'intéressé comme des erreurs de jeunesse. Engapet porte-drapeau pour l'équipe de France Olympique, est-ce que ça vous dérangerait? C'est la discussion, c'est le débat du Minuit Info. Jingle. J'ai l'impression que ça ne dérange pas grand monde. Philippe Sanfourche.
Non, parce que déjà, la probité sportive, je pense qu'elle est inattaquable. C'est un très beau sport qui est revenu de très loin. Et donc, à ce niveau-là, évidemment, rien à dire. Après, on l'a dit, la justice, ça sert à quelque chose. S'il y a des victoires en appel, c'est que, par définition, il avait de quoi se défendre. Ensuite, qu'il ait pu y avoir des petits dérapages, des fautes de comportement qu'il n'en a pas fait. Et j'ai même envie de dire que c'est aussi un message à travers le sport, à travers une discipline collective au quotidien. Tu peux aussi effacer les soucis et te remettre dans le droit chemin. Pour moi, c'est un candidat hyper intéressant, comme Florent Manoudou peut l'être également.
Oui, moi, je suis moins optimiste que toi. Je suis moins... Moi, je trouve... Alors, moi, je suis peut-être un petit peu vieux machin. Mais pour moi, quelqu'un qui va porter notre drapeau, qui va emmener toute la délégation olympique, c'est quelqu'un qui doit être net de chez net. À partir du moment où tu as eu des problèmes avec la justice, quelle qu'elle soit, même si effectivement... Ah non, mais je vous le dis.
Deuxième chance, les trucs, non?
Non, mais les deuxièmes chances, arrêtez de me gonfler avec vos deuxièmes chances, s'il vous plaît.
Coupable!
À vie. Mais c'est pas ça.
Coupable!
Mais c'est pas ça. Si tu te retrouves un jour devant un tribunal, excuse-moi, c'est que de toute façon, il y a quelque chose. Alors, que tu gagnes ton procès pour plein de choses, c'est autre chose.
Mais c'est quand même par détail s'il a été
relaxé. C'est quand même...
Ce sont des histoires qui ne sont pas si vieilles que ça non plus. Erreur de jeunesse.
Si tu te retrouves devant un tribunal, même si tu es relaxé, je suis d'accord avec toi, mais bon... Surtout pour des bagarres, etc., etc. Moi, je vous le dis, je suis... Mais non, mais moi, ça me gêne.
Pardon, mais c'est pas
moi,
rapport...
un porte-drapeau, c'est quelqu'un qui doit être tout blanc. Je regrette. Je suis certainement de la vieille génération. J'ai une vue peut-être un petit peu restrictive par rapport à ça. Mais moi, celui qui porte le drapeau, c'est quelque chose... Je suis désolé, mais pour moi... C'est très patriotique.
Donc ça vous dérange.
Ça doit être net.
Okay. C'est le général de Gaulle.
Président Amélie, vous êtes président de l'équipe du soir. Il y a des choses qui sont dites sur ce plateau, cette seconde chance, exprimée par Philippe Sanfour.
Seconde chance, il a
la
pas.
La rectitude de notre ami.
Oui, c'est même un peu exagéré.
Il n'a pas non plus. Seconde chance, c'est exagéré. C'était un enfant terrible, quoi. Voilà, un enfant terrible. Voilà, c'est pas.
Ça vous dérange ou pas?
Non. Moi, non, pas par rapport. C'est pas aller bien loin, quoi. Tu peux te prendre avec un agent de la SNCF, machin. Oui. Je connais pas les tenants et les aboutissants. Il faut croire que peut-être il n'avait pas toute la responsabilité. Il a le sang un peu chaud. C'est un enfant terrible, quoi. Bon, un enfant terrible.
Et pourtant,
mais ça a l'air d'être important pour les athlètes. Hein.
J'apprécie énormément le joueur.
Oui,
ça
oui.
Ça n'a rien à voir. Hein.
Mais après, ce que dit Olivier, je ne jette pas non plus.
Bon, une gapette pour drapeau, ça dérange. Pas grand monde sur le. Non, pas du tout. Pas du tout, sauf Olivier.
Et puis, est-ce que c'est important je ne sais pas, c'est une question que je pose.
Ah,
c'est
si. Vrai
que
ça. Vous en foutez.
Le porte-drapeau
Vous en foutez du porte-drapeau
Complètement.
Ah, c'est simple.
je vois que ça prend beaucoup de place. Est-ce que tu as parlé, d'accord?
Non, mais.
C'est net et clair, tu as parlé. On a bien compris.
Non, après.
Général, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se portent candidats, il y a des gens qui se déchirent, qui râlent parce que trouvent que les choix ou la règle pour le choix,
le mode de désignation,
sur le mode de désignation est un peu ancien et je trouve que
vous comprenez pas
je comprends pas moi je trouve que la meilleure manière de représenter correctement son pays c'est d'avoir une médaille et puis c'est pas avant et après quoi.
Non,
c'est pendant la compétition. Non mais c'est vrai.
Après candidat pour la médaille.
Après mon avis.
Adjudant du FIR,
je vais écouter le général.
Mais non, il y a pas de général. Non mais juste un truc.
J'ai beaucoup de respect pour ton âge.
Non mais juste un truc. J'ai fait les Jeux Olympiques.
76.
J'ai défilé. Je sais ce que c'est.
Non, qui portait le drapeau chez toi?
Je me rappelle pas.
Mais c'est hyper important. C'est hyper important.
C'était Guy, non?
Je crois que c'était. Ouais.
C'était Guy qui portait le
Guy Drut. Ça peut être Guy Drut.
Ouais, c'est Guy Drut.
Oui, parce qu'il avait gagné.
Mais non, mais quand t'es derrière le drapeau, excuse-moi, mais il y a quelque chose qui se passe.
D'accord.
Alors c'est peut-être pour ça que je réagis comme ça, parce que je l'ai vécu, parce que je sais ce que c'est, et je trouve tellement ce moment, je peux vous assurer, parce que c'est un moment absolument extraordinaire.
Et puis, le porte-drapeau au JO 76 de
Montréal,
voilà. Les cyclistes.
C'est Daniel
Morelon. Daniel Morelon, d'accord.
C'est important. Ouais,
tu vois, c'est vachement important, tu t'en souviens plus.
De plus, t'as pas eu de médaille.
Il a pris une bordure. Il a pris une bordure, il visait avec le drapeau.
4-1 contre le Japon, non?
Non, 3-1 contre l'Allemagne de l'Est.
Ah oui.
Le futur.
Grosse équipe, puisque c'est des professionnels.
Et on s'était fait voler par un arbitre.
Les valeurs de l'Olympisme.
Il a viré Jean Fernandez, ouais. De ce coup, il n'y a pas qu'au Rubio qui vient lui dire, il a viré tout le monde, il s'est retrouvé à 9.
Ah, ouais.
Les valeurs de l'Olympisme.
Malgré le grand Michel
à noter que
et Jean-Claude Larieux dans les buts.
Oui.
Il n'a pas marqué 14 buts, là.
Non, l'Allemagne de l'Est est
ah oui, vous battez le Japon, en fait. Tu t'en souviens plus de ces Jeux Olympiques?
Match de préparation.
Ah, le papa.
Match le tour.
Non, le tour d'avant, pendant les JO. 3-1.
Je pense qu'il n'y était pas.
Oui, il n'y était pas. Il s'en fout. Il s'en souvient plus.
Quand vous lui avez pris en début d'émission, il a
marqué
14.
Oh là là.
Olivier, vous êtes comment en slip de bain?
Comment?
Vous êtes comment? Non, parce qu'il y a une info qui vous intéressait. Le centre aquatique des JO a été inauguré aujourd'hui.
Ah, c'est bien.
Oh, c'est triste.
Il y aura le tournoi préliminaire de water polo, des épreuves de natation artistique et du plongeon lors des prochains Jeux Olympiques. Vous voyez, on a fait les choses en grand pour inauguration dans ce magnifique écrin. Emmanuel Macron, le président de la République, était bien présent, tout comme Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional d'Île-de-France.
Hidalgo, n'oublie pas parce qu'on peut avoir des problèmes.
Un petit coup de buzzer pour officialiser l'ouverture. Malheureusement, il y a une image qui a déjà pas mal tourné aujourd'hui, puisque lors de cette inauguration, regardez le plongeur à droite, c'est Alexis Jandard, malheureusement, qui a shooté. Mais si, il en a rigolé aujourd'hui.
Oui,
le plongeur de 26 ans est qualifié. Hein, il est qualifié pour les JO.
C'est Grégory Schneider.
C'est notre meilleure chance.
Non, attends, il est qualifié, mais quand il va remonter sur le plongeon, il va y penser.
Mais non.
Justement, il va exorciser.
Non, mais il a pas l'air. Il a pas l'air traumatisé. Il a
non,
pas
du tout.
Message.
Il a bien rigolé de ça.
On voit qu'il a beaucoup d'humour et au final, il a
ça fait un buzz positif pour lui.
Non, il est très sympa, le gars.
Et ben voilà. Ouais. Bonjour raté, buzz mondial, extraordinaire. Les équipes de France de basket masculine et féminine, ça sera sur la chaîne L'Équipe.
On a les droits.
Merci beaucoup, avant les JO. Toutes ces précisions avec vous, Tanguy.
Oui, il y aura 11 matchs en direct et en exclusivité sur la chaîne L'Équipe entre le 29 juin et le 21 juillet. Le 12 juillet, justement, on aura d'ailleurs deux grosses affiches, pas de France-Brésil, hein, mais deux France-Serbie chez les hommes et chez les femmes.
Ah oui.
Ce sera l'occasion, notamment chez les garçons, d'avoir un duel en haute altitude entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama. Pour rappel, les filles restent sur une médaille de bronze au dernier jeu, les garçons sur une médaille d'argent.
Monaco qualifié en quart de finale de l'Euroleague, c'était officieux, c'est tombé ce soir un peu mécanique, c'est donc officiel.
Avec le succès 69-66 à la maison face aux Zalgiris Kaunas, qui les qualifie pour les playoffs, les Monégas, et qui les rapproche aussi du top 4 de la saison régulière, synonyme d'avantage du terrain en playoffs. Mike James a assuré avec 18 points, deuxième meilleur marqueur de son club derrière Motier Jonas. Malgré cette victoire, vous voyez la plus belle action du match, ce alley-oop signé des Lituaniens, Kenan Evans à la passe et Kivarius Hayes à la réception. Du côté de l'ASVEL, victoire écrasante en Espagne, 69-98, hein, 98 pour l'ASVEL, 29 points d'écart, 8e victoire de la saison pour l'ASVEL, même total que la saison passée. Nando De Colo, 19 points ce soir, ce qui lui permet de devenir le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague derrière Mike James. Vendredi prochain, l'ASVEL défiera le FC Barcelone et ce sera sur la chaîne L'Équipe à 21h.
Okay. On a les droits.
Chers téléspectateurs, vous en avez peut-être marre de PSG-Barça, il y aura une deuxième salve, mais en Ligue des Champions, en quart de finale, PSG-Barça, puisque ce soir, le Paris Saint-Germain en balle, c'est défait du Wisla Plock, ce sont les Polonais.
Oui, les Parisiens s'étaient imposés de 4 buts à l'aller, 30-26. Eh bien, ce soir, victoire d'un petit but face à ces Polonais. Elohim Prandi a été le meilleur marqueur de cette rencontre. Victoire 34-33 des Parisiens à Coubertin. Le PSG Handball a assuré et s'offre un quart de finale donc de choc face au FC Barcelone. Une très, très belle rencontre de la part des Parisiens qui ont quasiment toujours mené dans cette partie.
Encore un but Prandi. Merci Tanguy. Fin de ce Mini Info. Lille-OM, c'est demain en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Au classement, Lille est 4e, compte 7 points d'avance sur l'OM qui est 7e. Avant cette rencontre, donc, ou après cette rencontre plutôt, il restera 6 matchs à disputer en Ligue 1. Et pour Jean-Luc Gasset en conférence de presse, il y a un peu d'urgence à gagner. Écoutez-le.
Demain, on va peut-être renverser la vapeur. Et il faut renverser la vapeur. Demain, il faut redémarrer une dynamique positive. On a eu un pic très haut d'entrée, on a un pic un peu plus bas sur deux matchs de championnat. Demain, il faut réenclencher. C'est la dernière équipe à l'extérieur qui est au-dessus de nous.
L'OM en Ligue des Champions la saison prochaine, est-ce qu'on sort, on aura la réponse dès demain à cette question? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Formidable ce soir, Olivier Rouillet, vous n'êtes jamais d'accord avec votre voisin Philippe Sansfort, c'est pour ça qu'on vous a sélectionné. Est-ce qu'on aura la réponse dès demain? Non, Olivier, juste avant, dans le téléphone pour avoir tous vos indices.
Bah non, je regardais, oui.
Il travaille, il avait écrit quelque chose, une bafouille.
Non, pas du tout, mais non, c'était rien. Non, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît.
Il y a un petit moteur dans le vélo, j'ai l'impression.
Est-ce qu'on aura la réponse dès demain pour l'OM en Ligue des Champions la saison prochaine? Vous dites oui, Philippe dit non, oui. Allez-y, mon cher Olivier, on vous écoute attentivement, le président aussi.
Bah déjà, moi j'ai retenu la conférence de presse de Jean-Louis qui dit notre équipe, elle a eu un pic de bonheur et puis en ce moment, ça va un peu moins bien. Donc c'est tellement impératif demain pour gagner. Pourquoi? Parce qu'en cas de défaite, eh bien déjà, Marseille se retrouverait à plus de 10 points de Lille, qui serait troisième peut-être à la fin de la journée de championnat, puisque si Brest gagne, etc. Bon, donc Marseille a besoin impérativement de gagner. Donc s'ils n'y arrivent pas, si en plus ils perdent, je pense que cette dynamique qui n'existe plus risque d'emmener Marseille dans une très mauvaise direction et abandonner, à mon avis, la CA.
Attention, Olivier, 30 secondes.
Excusez-moi.
Vous êtes un petit peu gourmand.
Excusez-moi, cher ami.
C'est non pour Philippe Sansfourche. Pourquoi, Philou?
Parce que l'enjeu pour Marseille sur cette fin de saison, c'est l'Europe. Ce serait déjà beau, l'Europe. Ils sont septièmes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas européens. Il faudra espérer une victoire de Paris en finale de Coupe de France pour qu'ils soient européens. Ils sont à 10 points de Monaco, qui aujourd'hui est en Ligue des Champions à la troisième place. Et quand on regarde le bilan de l'OM face aux équipes de tête depuis le début de saison, je crois que c'est 5 points sur 30 possibles. Le seul match qu'ils aient gagné, c'est face à Brest, c'était au mois d'août, en début de saison. Donc il faut être réaliste, l'OM joue l'Europe, mais ne joue certainement pas la Ligue des Champions.
Ok. Donc vous le savez, c'est pas réponse demain. Pour Philou, c'est râpé depuis déjà quelques temps. Non, il y a encore un peu d'espoir, ou en tout cas une légère fenêtre, et il faut en profiter vraiment demain.
Pour Olivier?
Pour Olivier, oui. Il faut en profiter demain. D'accord. Sinon, ce sera le terminus des prétentieux.
Moi, j'ai peur que pour eux, que ça soit terminé, la C1. Ouais. Et alors, qu'ils battent Lille. J'ai vu Lille-Lens, je le commentais, et c'était tout le temps. Je ne vois pas vraiment inquiéter Lille aussi. Bon, après, c'est un match de foot, etc. Mais ils ont trop de lacunes. Après, beaucoup de blessés. Bon, c'est une année qui a été très spéciale, on le sait. Je pense que s'ils ont la 7e place, déjà, à supposer que le PSG donc gagne la Coupe, c'est, je suis comme Philippe. Je dis déjà, c'est bien. Et je pense qu'il signerait, quoi. Donc, je suis plutôt Philippe.
Ok, déjà éliminé de la course avec les champions. Mélisande,
oui.
Je donne la main. Attendez,
mais il y a un truc que je comprends.
Vous demandez audience ou pas? Vous ne seriez pas en train de demander audience au président?
Mais non, mais je ne comprends pas. Vous demandez la C1. On n'a pas parlé du reste, on n'a pas parlé d'Europe, on parle de C1.
Il répond pour la C1, Philippe. Là, il vous a. Dans l'argumentaire, ils sont à 10 points déjà de Monaco.
Je vais même plus loin, c'est que même s'ils gagnent à Lille, je ne vois pas comment ils vont qualifier en C1.
Pour lui, les carottes sont cuites. C'est fini.
Pour lui, les carottes sont cuites.
C'est terminé.
Aussi, les carottes sont cuites.
Oui, non, mais c'est vrai que ça prête à confusion. Moi, je suis d'accord avec Olivier. C'est pour ça que je t'ai dit à la fin, c'est donc Olivier qui
vous lâche. Pour la C1, c'est fini, c'est clair.
Voilà.
Je ne comprends pas votre truc, là. Il y a quelque chose.
Bon,
la C1.
C'est pas toi qui m'aimes.
L'OM.
Mais lui, s'il dit non, ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir pour Marseille d'aller en C1, excusez-moi. Non.
L'OM en C1 la saison prochaine, réponse face à Lille demain.
Ça veut dire que tu seras face à Lille, ça veut dire,
ouais. Moi, si Lille perd, c'est net, c'est clair, fini, c'est fini, il n'y a plus. On le sait.
Oui, donc l'OM pas en C1, t'as la réponse face à Lille. Mais l'OM demain, en C1, t'as demain. Pas la réponse face à Lille. C'est-à-dire que même s'il battait Lille... À Lille, c'est pas gagné.
Écoutez,
ça voudrait pas dire qu'ils sont qualifiés en C1.
Olivier.
Les chances sont multipliées.
Olivier, je répète à longueur d'émission que mes parents m'ont financé une école de questions. Je sais pas, vous, il faut que vous fassiez une école de réponses. Il y a un truc. Mélisande,
oui.
Des vélos, je le rappelais, vous suivez donc l'Olympique de Marseille.
Olivier est quand même champion olympique en 76, donc un peu de respect. C'est ça, t'avais gagné ou pas, Olivier?
C'est Guidru qui portait le drapeau.
Ils ont battu l'Allemagne de l'Est. Il a marqué 14 buts dans le même match d'ailleurs. Enfin bref.
Bon, sur l'OM, les carottes sont cuites, c'est un match éliminatoire demain où l'OM est déjà éliminé.
Ouais. C'est quand même un match où ils peuvent rallumer une petite flamme. Après, moi, c'est vrai que vu comment la question est posée, alors vous me dites que vous avez fait l'école de questions. L'OM en C1, réponse face à Lille, ça voudrait dire que s'ils gagnent Lille, ça veut dire qu'ils sont en C1. Non. Mais ça voudrait dire qu'ils n'ont pas complètement...
Oui, la question n'est pas bonne.
La question est mal posée.
Est pas bonne.
Il va redoubler.
Il y a plusieurs écoles de questions, il y en a des bonnes, des moins bonnes.
Est-ce qu'à Marseille... Tu as fait quoi à l'école? Celle de Roubaix?
Non, le SQ. L'école supérieure de questions.
Ah ouais, à Lille.
Qui n'existe plus. Ils l'ont fermé.
Ah ouais, du coup. D'accord.
Ils l'ont fermé, il y a des gens qui tombaient malades.
Ouais, ouais.
SQ par-dessus.
Mais est-ce qu'à l'OM, il y a des gens...
Tu me montreras tes diplômes.
Qui parle encore de Ligue des Champions.
Non, mais effectivement, parce qu'en plus, même si tu bats Lille, ce qui est vraiment, ce qui n'est pas fait, mais ce n'est pas impossible non plus. Hein.
Oui,
tu as Nice et Lens encore devant toi, que tu vas jouer au Vélodrome d'ici la fin de saison, et qui ont des points d'avance par rapport à toi. C'est-à-dire qu'il faudrait que toutes les équipes de devant aussi perdent des points de l'âge des points, et que pendant ce temps-là, Marseille fasse une série. Alors, mathématiquement, tout est jouable. C'est vrai que le match de demain, c'est un peu la dernière chance.
Voilà, c'est ça.
Ou alors, c'est le chaos, enfin, le chaos, puis haut, pas le chaos comme on a eu souvent cette saison, mais un chaos technique, quoi. Parce que là, si tu te retrouves à 10 points de Lille, il restera le quart de finale de Coupe d'Europe pour animer un petit peu la fin de saison, avec la perspective d'avoir Liverpool et de faire un joli match. Mais
sur l'infirmerie, là, donc je pense à Mbemba forfait.
Ouais. Mais il n'a rien de grave, Mbemba. Non. Il va pouvoir revenir
pour Benfica.
D'accord.
Il a eu juste une contusion. Il n'y a pas eu d'entorse. Il n'y a pas de problème ligamentaire sur son genou. C'est juste une contusion à des douleurs qu'il avait déjà eues à Porto.
Samuel Gigot, mais ça va mieux. Il a joué.
Gigot, le problème, c'est qu'il a eu une entorse de l'épaule,
la clavicule,
et que il y a toujours une appréhension sur les chocs, sur les duels, sachant que c'est un joueur de duel, et que quand on est défenseur central, il y a toujours le risque de prendre un coup sur l'épaule. Donc il y a une fragilité au niveau de son épaule, mais il s'entraîne normalement. Il a joué contre. Enfin, il est entré contre Paris, donc il sera là.
Et sur cette équipe, là, j'ai lu juste avant, c'était vendredi dans la Provence, il y avait une stat qui était quand même inquiétante. Depuis le début du championnat, c'est simplement 3 victoires pour l'Olympique de Marseille face à des équipes du top 10.
Oui.
Ah, c'est pas, c'est pas les 3 premiers.
Mais c'est pour ça que la Ligue des Champions, on saurait ce que dit Philippe, c'est-à-dire que c'est peut-être pas la cour dans laquelle ils jouent cette saison. On a assez parlé des limites techniques de l'effectif. On se rend compte que les entraîneurs changent. Il y a eu le gros débat sur Gattuso qu'il fallait surtout pas jouer en 4-3-3. C'était la faute, la cause de tous les maux. Il jouait en 4-3-3, ça n'allait pas. Bon, Gassé, il joue en 4-3-3. Il a gagné des matchs parce que c'était clairement Montpellier. Et puis quand le niveau s'élève, quand tu joues Paris, c'est compliqué.
Rennes.
Rennes. C'est des équipes où il y a un effectif avec plus de qualité technique. Ça manque de qualité individuelle cette saison à l'OM et notamment devant.
Et on a vu un extrait de la conférence de presse de Gasset.
Ouais.
Il n'y croit pas, quoi.
Ah ouais.
Enfin, franchement, il
a l'air essaie de faire le job quand même.
Oui, mais il met pas beaucoup d'entrain.
On lui dit c'est le moment de réactiver.
Je trouve qu'il n'est pas.
Non mais c'est bon.
Est-ce que le match positif, c'est normal. Oh. Il est arrivé. Il a vraiment réussi ses débuts à réveiller une dynamique, à gagner les matchs parce que c'était une équipe qui était vraiment en plein doute. Mais là, ça fait 3 défaites d'affilée, dont une qui compte pas puisque Villarreal est qualifié, donc on va dire que ça compte pas celle-ci. Mais en Ligue 1, il partait avec un gros handicap Gassé en arrivant parce qu'il y avait déjà beaucoup de retard. T'as pas de marge. T'as perdu 2 matchs contre Rennes et Paris. Et c'est vrai que Lille, tu te dis, c'est plutôt une équipe du niveau de Rennes ou Paris que d'une équipe de Clermont-Montpellier.
Est-ce que le match le plus important pour Marseille, c'est pas la semaine prochaine contre Benfica?
En tout cas, ça peut animer le mois de mai, parce que si tu joues Liverpool au Vélodrome, ça va être une belle soirée au Vélodrome. Après, il n'y a pas vraiment d'espoir de qualification non plus contre le Liverpool. Mais ce serait une belle soirée pour les supporters de l'OM.
Mais Lisande, je vous coupe parce qu'on a une bonne nouvelle.
Oui.
On a retrouvé Joaquín Correa. Son nom a été prononcé aujourd'hui par Jean-Luc Gasset en conférence de presse. Oui, parce qu'il a joué simplement 23 minutes de jeu sur 4 matchs en 2024. J'aurais besoin de lui à un moment donné. Merci, Mélisande. Faut-il croire
sur parole, Jean-Louis Gasset. Les entraîneurs, pareil, changent.
Ouais.
Et on ne voit pas beaucoup Joaquín Correa. Donc, il a été blessé assez sérieusement à la cheville. Il a pris un tacle vraiment violent, pour le coup, contre l'Ajax. Et visiblement, il y va tranquille, quoi. Il n'y va pas vraiment dans les duels. Alors, est-ce qu'il a peur pour sa cheville? Est-ce que c'est son tempérament Mais des échos qu'on a des séances depuis plusieurs mois. Hein,
c'est un joueur d'évitement.
Il n'est peut-être pas à fond, en tout cas, aux yeux des staffs qui se succèdent, pas assez pour lui donner du temps de jeu. Et il est dans un secteur où il y a vraiment d'autres choix.
C'est ce qu'il a dit, d'ailleurs, Jean-Louis.
Parce que, alors après, Correa, on ne sait pas, il a joué longtemps sur un côté, il joue dans l'axe, donc lui, il préfère.
Jean-Louis Gasset, lui, il a dit aujourd'hui, c'est un joueur d'axe. Jean-Louis Gasset a dit c'est un joueur d'axe.
Et dans l'axe, il y a du monde et Aubameyang, on peut pas. Voilà, il fait le boulot, il est bon. Correa, qui est quand même un des gros salaires de l'effectif,
450 000 euros.
Ça n'a pas été une franche
risque. Même le mec qui était censé remplacer Alexis Sanchez. Quoi.
Oui. Mais alors, à l'Inter, ils sont tous pour la qualification de l'OM en Ligue des Champions.
C'est une vraie réussite, ça.
Puisque si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, et c'est peut-être pour ça que ce n'est pas complètement une mauvaise nouvelle de ne pas se qualifier, c'est que l'option est automatique en cas de qualif. Et c'est 11 millions d'euros pour l'Inter et pour récupérer Joaquin Correa. Donc, le fait de ne pas se qualifier en C1, au moins, ça permettra à Correa de rentrer à Milan.
Tout alors,
l'Inter,
calculé,
ils sont pas forcément contents. Ils espèrent à l'Inter que l'OM se qualifie, mais ils sont très inquiets.
Le cadeau.
Le salaire brut mensuel de Correa, c'est grâce au travail journalistique de l'équipe, c'était il y a deux semaines, 450 000 euros. Puis j'ai regardé le salaire brut moyen de l'OM, hein, 261 000 euros. C'est la deuxième, on va dire, en moyenne.
C'est la deuxième salariale
de Ligue 1. Ouais. Quand finalement Didier nous dit demain, Lille, Olympique de Marseille, par rapport au talent qu'il y a sur l'équipe, c'est un peu kiff-kiff, même peut-être avantage à...
Non, avantage Lille.
Lille, c'est 93 000, hein, le salaire, la masse salariale.
Mais
on est de 93 000 à 261 000.
Ouais, c'est énorme.
Si vous vous rendez compte, il y a une marge. Ouais. Non, mais c'est trois fois plus.
Ben oui.
C'est fou, hein. Ouais, par rapport à ce que tu vois sur le terrain.
C'est énorme.
Tu vois pas l'équivalent des trois fois plus. Tu vois trois fois plus l'autre.
Ben oui, mais bon. Franchement. Ouais. Pourquoi?
Parce qu'il y a eu des erreurs de recrutement, il y a eu des joueurs, je pense, qui n'étaient pas au niveau
qu'on espérait. Ils ont un entraîneur, le même, qui était là la saison dernière, qui fait de très bons boulots.
Et Lille, en plus, travaille bien.
Et puis, Lille travaille bien, manifestement, oui, bien sûr.
Et puis, tu ne fais pas venir Aubameyang pour 90 000 euros par mois.
Non. Voilà, c'est ça. Oui. Ah oui, non, c'est sûr qu'aussi.
S'il n'y avait que des Aubameyang à ce salaire-là, ce serait. Il n'y aurait pas de problème.
Toujours aussi l'OM, alors je ne sais pas pour les défendre, mais tu ne peux pas acheter les mêmes joueurs à l'OM que dans d'autres. Ou à Paris, ou dans ces clubs-là, il faut des joueurs avec certains pédigrés, une expérience particulière. Si tu mets qu'une équipe de jeunes à l'OM, ou des joueurs qui ont fait leurs preuves en Ligue 2 ou dans un autre club étranger, avec moins de pression, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tu aies des joueurs comme Alexis Sanchez, comme Aubameyang, comme Vertu, des joueurs qui ont un bagage pour résister quand même. C'est quand même une pression particulière.
Vous en parlez beaucoup en ce moment dans l'équipe de Ouani qui a été formidable pendant la Coupe du Monde et qui n'arrive pas à passer le Pardon, Raymond Gauthier, je confonds.
Non, mais c'est sûr qu'Ounaï, à Angers, il n'avait pas la pression qu'à l'OM, mais il n'y a pas les mêmes attentes. Ouais, alors, Angers,
tu constates que je
ne
pas de toi, moi.
Non, mais tu aurais pu.
Tu
ne
peux pas toujours comparer avec les autres clubs sur la masse salariale, c'est vrai.
J'aurais pu me moquer de lui.
Bah oui.
Non, mais moi, j'aurais trop de respect pour Guillaume. Moi.
Dans quelques minutes.
Mais qui aime bien, châtie bien.
Dans quelques minutes, on traverse la France en quelques minutes. On va à Marseille. À Lens, allez, à tout de suite. Les amis, c'est la dernière ligne droite de l'équipe du soir, en compagnie de Philippe Sanfourche, d'Olivier Rouillet, de Guillaume Dufy, de Lilian Gomez et du président à vie, Didier Roustan. Tanguy Le Sévrier, il se passe toujours quelque chose du côté du groupe L'Équipe. Et vous avez la une du quotidien déjà de demain, enfin dans quelques heures.
De ce vendredi, effectivement, la une avec Jonas Vingegaard en une, la grande peur. C'est ce qu'on peut lire en une de L'Équipe. On rappelle, hein, il a chuté sur la quatrième étape du Tour du Pays Basque. Il souffre d'une clavicule cassée, de plusieurs côtes cassées. On lui souhaite un prompt rétablissement.
Et puis, homme Lille, du danger, jeu de mots, Nadal, le forfait qui interroge. Cap sur Lens à présent. Pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui en conférence de presse, c'est la séquence qu'on va vous montrer. On va revenir en arrière, c'était vendredi dernier. Francaise vient de perdre le derby contre Lille et déclare ceci.
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je ne vais pas incriminer qui que ce soit, mais il faudra encore améliorer l'équipe tant que faire se peut.
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Cette phrase, c'est le point de départ de sa conf du jour. On y va.
Mais on fait du mieux possible avec ce qu'on est, plutôt qu'avec ce qu'on a d'ailleurs. Je crois que c'est plutôt ça que j'aurais dû dire. On est le 8e budget. Voilà. Alors oui, on a été vice-champion de France en 22-23, dans une année exceptionnelle, complètement exceptionnelle. Mais on est le 8e budget. Et après avoir été deux fois 7e, alors qu'on n'était pas 8e budget d'ailleurs à l'époque. Deuxième l'an passé avec 84 points. Cette année, après avoir pris 8 points en Ligue des Champions, après avoir été dernier à la 5e journée, on est 6e, à 7 journées de la fin. Mais il ne faut pas nous demander d'être plus haut qu'on ne peut l'être.
Alors comment comprendre, comment lire finalement cette sortie de Francaise ? Vient-il de sortir Lens de la course à la C1 ? Est-ce qu'il faut l'entendre ainsi ?
Moi j'adore.
C'est très bien, effectivement.
J'adore.
Il est très honnête.
Ouais. J'adore, mais parce qu'il a totalement raison, évidemment. T'es supporter de Lens, t'as goûté au sublime en 2022-2023. Qu'est-ce que tu penses ? Et même peut-être les journalistes qui suivent Lens, t'attends à une confirmation. Mais la saison de Lens, moi je la trouve remarquable. Ils parlent des 8 points en Ligue des Champions, ils ont quand même réussi à faire vibrer, à nous tenir en haleine sur ce plateau pendant quelques semaines en Ligue des Champions. Ils sont 6e, ils ne sont pas largués, l'Europe est encore jouable, la Ligue des Champions est encore jouable. Je trouve que Lens, avec ce budget, avec le travail du staff technique, qui a réussi à transformer des joueurs très moyens en joueurs plutôt corrects de Ligue 1, voire de Ligue des Champions, je trouve que voilà, c'est remarquable que ce club soit pérennisé en Ligue 1, ne souffre pas, revient de loin.
Il dit ça. Oui, mais il y a beaucoup de gens, si tu veux, qui comprennent pas forcément ça, parce que comme ils ont été deuxième, ils se disent pas, bah, ils devraient être premier le coup d'après.
Ouais, mais faut être lucide aussi.
Je suis bien d'accord, mais lui, il doit aussi connaître la frustration, et puis je pense que ça peut être un message codé.
Il le dit un petit peu
à ses dirigeants.
Ouais.
Et il l'avait dit déjà il y a 15 jours. Oui. Où il disait voilà, on a peut-être atteint aussi notre plafond de verre. Ouais. C'est vrai qu'ils étaient en sur-régime. J'ai dit sur ce plateau ici que il y avait un certain nombre. Enfin, de joueurs à deux ou voilà qui avaient superformé. Mmh. Fofana, Openda, qui ouais. part finalement, tu as une équipe un petit peu inférieure, c'est
un
le paradoxe.
Peu inférieure, tu perds ton meilleur buteur et ton meilleur
non,
joueur.
Non, ouais. bien sûr, mais après c'est bon. Mais aussi, il faut bien être conscient que ce sont des joueurs moyens et moyens plus.
Prends souvent l'exemple de Gradić
dans l'équipe.
Il y a 3-4 ans, il était à Caen.
Mais bien sûr.
Les supporters étaient voilà. pas très contents et pensaient voilà. qu'il n'avait pas le niveau. Aujourd'hui, c'est quand même une valeur sûre
oui,
de Lens et de Ligue 1.
Ils font leur boulot, ils se défoncent, ils se truc et tout. Mais à un moment, ça reste des joueurs moyens et moyens plus. Et en ayant, c'est le collectif qui fait la différence et l'entraîneur qui fait la différence.
Et le staff,
sans
oui,
doute
ouais.
l'environnement et tout ça et tout. Oui, mais si tu sixième dans ces conditions-là, c'est voilà. Super. Moi, j'ai vu le match contre Lille. Il y avait un sentiment
de
d'impuissance, si ouais. tu
un
veux.
Un peu de renoncement.
Oui, Lille, en plus, un ils poil. Ont attendu chez eux. Bon, ils marquent vite par Zegrova sur une contre-attaque. Mais tu sens qu'il y a plus d'individualité à Lille. Tu vois, il y a ce Zegrova, il y a Jonathan David, il y a du métier avec Benjamin André. Il y a plus de matos, quelque part. Mais et à l'arrivée, ils ne seront peut-être pas si loin de...
Mais là, on a fait le constat oui. sur la saison. Mais,
donc c'est
mais,
bien de le dire aussi.
Mais il le dit, il le dit. Pour, bon. Il le dit, mais on est dans un timing. Il ne reste plus que 7 journées.
Est-ce que c'est pas une forme justement de dire à ces joueurs, parce que peut-être qu'on a l'sentiment qu'ils sont au taquet,
oui.
tu vois, et on a peut-être l'impression qu'ils puissent pas,
oui.
mais c'est peut-être une façon,
manager.
Pas de les déresponsabiliser, mais de les soulager.
Oui, ils les protègent,
peut-être.
Mais
aussi, ouais.
tu les protèges,
ils les protègent,
tout
oui,
en peut-être
aussi.
En ayant un interne,
oui, oui.
un discours disant,
ah, oui,
hé les gars,
après,
on est quand même, oui mais oui. on est quand même capable
oui.
de faire encore plus. Que je te rejoins sur le fait que beaucoup de joueurs moyens ont surjoué, pas surjoué,
oui,
mais surperformé
oui.
la saison dernière. Mais quand même, il y a quand même. Il y a un constat qui est quand même intéressant, c'est que cette équipe, et il le dit bien, Francaise, et moi aussi j'adore, hein, ça c'est pas le problème, mais ils étaient derniers en début de saison, ils sont quand même de nouveau sixième, donc il y a quand même toujours un potentiel.
Quand même, hein.
Comment ?
On leur promettait l'enfer quand
fait,
même.
Oui, oui. Après le
donc il y a toujours un potentiel. Et ça aussi, c'est aussi le côté, comment je veux dire, faiblard de notre championnat
oui.
qui permet à certaines équipes de
oui.
se retrouver.
Oui.
Donc je te dis, c'est peut-être une forme aussi du rougeur. Bon les gars, extérieurement,
sans
on va peut-être un petit peu calmer tout le monde. On va dire qu'on ouais. a bien fait, etc.
Mais il y a raison de communiquer un peu, que les gens réalisent aussi.
Il y a eu un peu de secousse en coulisses aussi. Hein.
Moi ouais. en interne, je pense qu'au contraire, c'est peut-être un moment où on va peut-être être surpris. On va peut-être un coup de boost.
Sur la secousse en coulisses, on va l'évoquer parce que depuis le départ et le transfert ou le départ de Florian Gisolfi, l'homme, le coordinateur sportif, directeur
ouais.
sportif, qui avait, on va dire, fait un recrutement avec toute l'équipe de recrutement.
Avec Lens. L'œil. Ouais.
Eh ben, regardez, il y a, on va dire, il y a un remplacement qui n'est pas fait. Il y a eu Aize qui a été nommé manager général. Il y a eu Grégory Till qui est monté d'une case. Et puis finalement, on a appris qu'en octobre dernier, bah, Grégory Till était remercié de son poste. Là, après, on a eu Frédéric Hébert, pardon, qui a été nommé coordinateur sportif. Et on sent, là, il y a eu un papier...
De Joël Dominique Gatti la semaine dernière.
Ouais, ouais. Dans l'équipe, où il est contesté en interne. Ouais. Il y a quelque chose en interne qui se trame. Et quand Francaise nous dit... il vient de perdre le derby, il dit on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais. Est-ce que ça peut aussi créer des petites choses, là? Est-ce que finalement, en interne, là, vous me dites le rapport avec les joueurs, mais en interne, il y a un problème. Mais
après, il y a un truc. Non, il y a peut-être, il y a évidemment des soucis, parce que c'est difficile de remplacer Ghisolfi. Hein. On l'a présenté suffisamment comme l'un des acteurs majeurs de la réussite lensoise. Ouais. Et il marchait main dans la main avec Aize. Ils étaient sur la même longueur d'onde. Tu pars, Aize se retrouve un peu sans béquille. Il a été nommé, Aize, comme vous l'avez dit, manager général. Après... Ouais. Pas déclassé, mais il est redevenu entraîneur. Il y a un peu le flou, c'est difficile. Ils n'ont pas trouvé le remplaçant idoine, mais il le dit à plusieurs reprises, Aize, lors des deux conférences de presse. Huitième budget.
Excusez-moi, Lucas Blanchard est allé regarder. il a mis un bon réflexe, il a regardé l'équipe. Ouais. C'est pas mal.
Ouais, c'est plutôt
un Lucas que vous ne connaissez pas, chers téléspectateurs, ouais. mais qui est l'un des assistants de production, journalistes qui cherchent. On a regardé le budget, ils ne sont pas huitième pour nous. Hein. On s'appuyait à la lecture de l'équipe, ils sont cinquième budget.
D'accord.
On a fait le tableau, bon, Paris largement en tête, l'OM derrière, l'OL troisième, Monaco quatrième, et Lens avec 118 millions d'euros et juste devant.
Bah, il faudrait lui redemander, alors, peut-être qu'il y a aussi un...
Peut-être que tu comptes la Ligue des Champions, l'argent qui est... Qui
sur la masse salariale peut-être aussi, non, pas, non. Est-ce que sur la masse salariale...
Bah, écoutez, nous... Nous, sur la masse salariale, ils sont 8e, et sur le budget, ils sont 5e.
Ah, bah peut-être, bah voilà. Donc voilà, monsieur Blanchard a la réponse. Je pense que Francaise a dû inverser. Il voulait dire masse salariale.
Mmh. Ok, merci beaucoup. Monsieur Blanchard.
Bah non, mais merci, bon travail. Non,
c'est
très bon travail.
Très bon travail, intéressant. Ouais. Voilà. Mes amis, on va jouer à présent. Ah, il y a eu un rêve de duel quand même. Regardez.
Oh, Olivier!
Oh, rien comme ça.
Les 40 centimes.
Il est à Montréal. Ouais, ouais. Il est à Montréal. Ouais,
que, ouais.
Pour le thème.
Ça, plus sur les joueurs.
Attendez.
Je pense que les gens n'ont absolument rien compris à la question. C'est toute la différence.
Ouais. Ah, parce qu'on a exactement.
Mais non, mais de toute façon, on a la même réponse.
Par contre, on a bien compris le résultat, là. Comment? Le résultat, on l'a bien compris.
Ah non, mais je. Bon, Filou. Filou, silence. Filou, Olivier, silence. Vous avez les jokers, Filou. Sur le thème, je vous avais donné un indice. C'est l'anniversaire aujourd'hui de René Girard. 70 ans, bon anniversaire. Le thème du soir,
champion.
Les joueurs qui font un peu peur sur le terrain. Vous savez, les maillotcheurs, les joueurs d'impact, les joueurs qui ne font pas le voyage pour rien. Ah, hein, on se fait un thème comme ça.
D'accord.
Il n'y a pas René.
Il n'y a pas René.
Oui, mais de tout temps.
Ah ben de
très longtemps.
Ouais, est-ce qu'il y a Olivier Rouillet?
Écoute,
lors de ma première saison pleine en pro en 2002-2003, je prends 14 jaunes et 2 rouges.
Cahuzac.
Jurietti.
C'est pas Cahuzac.
Non, c'est plus.
Balmont. Pas Jurietti. Ah, c'est pas Balmont. Cette saison, j'ai écopé de 7 jaunes et 2 rouges. Le gars joue encore pour 3 points. Je suis un défenseur central de légende et je suis portugais pour un point.
Pépé.
Un point pour Guillaume Dufy.
Ah mais oui.
Attention mes petits. Ah, il est en duplex, Olivier. Vous avez le temps d'inertie, là, de 3 secondes, là. Ah,
oui. Pépé, il est sur le tour de Loire.
C'est notre Pépé, quoi. Tu restais dans les Français, moi.
Tiens, le suivant, c'est « Je suis français » pour 4 points. Ah. Un gars qui aime bien la maillotche.
Cahuzac.
Non, c'est pas lui. Je jouais latéral.
Off.
Cyril Roll.
Mais... Cyril Roll. C'est non. Pas lui. Mais c'est en tant que sélectionneur que j'ai vécu une finale de Coupe du Monde.
Raymond
Domenech.
Oui.
Je crois que c'est Didier, parce qu'il y a Philippe Cahin. Ouais. C'est Didoun qui marque. 2 points pour Didier Roustan.
Alors, c'est déjà la troisième question.
Non.
Bah, on est à la deuxième. 2 points.
Bah, 2 points, c'était l'avant-dernier indice.
D'accord. Okay.
Le dernier indice, oui, c'était ça, je suis chroniqueur
de l'équipe du soir. C'est pas la question.
Mes petits, attention, je suis attaquant. N'y allez pas tout de suite, parce que, ou alors là, si vous le sortez, là, je suis attaquant. Le deuxième indice est important et ça va peut-être vous mettre sur la voie. Né au Brésil, je suis devenu international espagnol.
Diego Costa.
Diego Costa, bravo. Excellente réponse de Leon Gomez.
Ah oui.
Ah, le premier était large. Ah tiens, c'est marrant ça. Donc un gars qui fait pas le voyage pour rien. J'ai joué la finale du Mondial 2010.
T'as commencé. Van Bommel?
Non,
c'est pas lui.
De Jong.
Ouais, De Jong. Nigel De Jong, 4 points pour Didier.
C'était l'un ou l'autre ?
C'était Van Bommel qui faisait ça.
Ah, celui-ci, vous pouvez le trouver rapidement.
Ok.
Le premier indice, c'est... Je suis gardien de but.
Schumacher.
Ouais. Schumacher. 4 points supplémentaires pour Didier Roustan. Philippe, c'est juste à titre indicatif, ce n'est pas pour mettre une mauvaise ambiance sur le plateau. Didier est sorti du peloton et largement en tête.
Ah oui,
le joker,
donc éventuellement le...
Bah, moi, je suis une petite chicane ou pas ?
Moi, je veux rester bien avec la présidence.
D'accord, donc...
Intelligent. Les voitures balayées,
Il risque pas de tomber,
Il peut pas tomber, il est pas à 80 km/h.
Ah. Attention, mes petits. Je vais vous dire un truc. L'identité du joueur, il a déjà été donné précédemment, là, dans le jeu depuis qu'on joue. Dans ma carrière, j'ai copé... Dans ma carrière, j'ai copé de 22 cartons rouges. Vous avez dit Cyril Roll. C'est Cyril Roll.
Mon ami Cyril.
Fallait le mettre en prison.
Ah ouais.
Bah oui.
Aïe. Fallait pas l'inviter.
Lors de la finale de Ligue des Champions en 2018, j'ai blessé Mossala.
Ramos.
Après. Ouais. Didier. Ouais. Didier.
Voilà, la volée.
Le bois vert.
Là, vous avez tenté le record du monde.
Ouais.
Vous voulez toujours pas le bloquer ?
Bon, là, je pense qu'il est bien parti.
Ouais, okay. J'ai remporté la Ligue des Champions en 2002 et en 2007. Et je faisais pas le voyage pour rien. Je suis milieu de terrain.
Gattuso.
Gennaro Gattuso ne faisait pas voyage pour rien, comme Didier.
C'est pas du tout un joueur méchant, Gattuso.
Bon, il y allait.
Maillot.
Combien de cartons rouges dans sa carrière ?
C'est les joueurs qui font
combien
peur.
Combien de cartons rouges ?
C'est là, mais y aller.
Un certain nombre, Mélisa.
Un certain nombre.
Ah ! Je suis très à l'aise avec mes mains. C'est un indice. C'est pas Thierry Henry. Mais aussi avec mes dents.
Suarez.
Ah, Luis Suarez, 3 points pour Mélisa Gomez. Bon, il n'y aura pas de remontada ce soir, puisque nous arrivons à la dernière question. Gattuso, c'est 8 cartons rouges.
Bah, en 20 ans.
Ça a mal, 8 cartons rouges.
L'avocat. Bon, très bon avocat. Ouais, franchement. Bah, il tient vraiment, tu sais.
On a un côté droit qui est fait là ce soir. Ouais. Hein.
Allez, les gars, on y croit.
Allez, vas-y.
Ils peuvent jouer ensemble, peut-être, non ?
Cantona, vous êtes éliminé. Ça suffit. Mon tacle sur le père d'Alande est le pire à la agression de la première ligue.
Roy Keane.
Ouais. 4 points pour Guillaume Dufy.
Je ne montrerai pas le drapeau, mais je serai médaille de bronze. Et on s'en souviendra longtemps.
On a oublié les joueurs.
Ah, Olivier, Philippe, on va jouer.
Non, mais on est plus sur les esthètes, les beaux joueurs. Bon, vous êtes sur les bourrins, c'est votre problème.
Vous dites ça, Didier. Là, franchement,
Didier, je vais enlever le joker.
Très belle victoire.
Vous aimez une fascination pour ces gars-là.
C'est pas un record à 21 points, on est pas loin quand même, non ?
Ah là, c'est un record du monde, là, je vous l'annonce.
Surtout que Keane, si j'avais pas fait le malin avec Canto, je crois que je devrais me devant. Mais bon, alors.
Allez, vous gagnez encore. Hein.
Mais pas à la CR.
Ah, pour une fois,
demain, région Pays de la Loire, Tours.
Ouais.
Tour des Pays de la Loire. Non, région Pays de la Loire, Tours, c'est la quatrième étape, prise d'antenne demain, 13h20. Vous avez eu le droit à Christophe.
Étape de montagne.
Non. Ils vont quitter Château-Gontier, ça monte. Non, ça va.
Et les bosses ?
Oui, quelques petites bosses.
Petites bosses ?
Oui, non, mais c'est pas les Alpes.
Les creux des bosses.
Les dodanes, quoi.
On vous embrasse, on vous dit à demain. Ciao, demain, Lille OM en ouverture donc de la fin du championnat. Allez, à demain.